Lettres et écrits des premiers Quakers suite, le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour renvoyer à un passage de l'écriture ou à des détails dans les écrits. NXV James Nelly à Margaret Fell, Nelly s'écrivait souvent Naylor. Les auteurs de ce texte ont examiné sa signature et des documents manuscrits, et ils ont déterminé que l'orthographe était Nelly. Londres, 3 jours du 9e mois année confirmée par George Fox, 1654. Ma sœur, tendrement aimée dans le Seigneur, hier j'ai eu une réunion dans une maison appelée celle de Lady Darcy. Beaucoup de personnes y étaient venues de la cour, quelques-uns appelés lords comme on le dit, beaucoup de dames, beaucoup d'officiers de l'armée, quelques-uns des principaux prêtres de la ville. Combien je ne sais, car ils se sont mis derrière un plafond, cela doit signifier un parave et ne sont sortis qu'après mon départ. Bien qu'il y eût quelques baptistes qui posèrent une ou deux questions après que j'eus terminé, tendant à plaider pour le péché, et qu'ils aient été réduits au silence, pourtant, pas un seul prêtre ne voulut dire un mot, ni se lever pour leur royaume. J'ai été poussé à appeler quiconque avait quelque chose à opposer à parler en face, mais personne ne répondit. James Nelly d'où trois des frères de Renwy Van Asterisk étaient là tout le temps, et lui-même resta caché derrière le parave mais vint après que tout fut terminé. Il est très affectueux envers les amis, mais ivre d'imagination, de présomption et de hautes idées. Il y en a une bande, d'entre eux enfoncés dans leurs imaginations, et ils en nuisent à d'autres parmi eux, qui autrement seraient très sensibles à la vérité. Plusieurs en viennent aux larmes lorsqu'ils entendent la vérité prêchée. Que la paix soit avec vous tous. Gervas Benson est un homme fidèle et fort utile parmi les juges et les avocats. Il se tient au-dessus de leur tromperie et il prospère. Grand est notre Dieu, béni à jamais, d'après l'original. Astérisque, Van était un personnage en vue à cette époque et par la suite. Il était fortement attaché à un gouvernement républicain et s'opposa à Cromwell dans sa marche vers la prise des rênes du gouvernement comme protecteur. On disait qu'il était l'un des chefs des indépendants. Burnet, l'historien, dit de lui, bien qu'il eût établi une forme de religion à sa manière, elle consistait plutôt à se retirer de toutes les autres formes qu'à proposer de nouvelles formes ou des opinions particulières. C'est pourquoi lui et son parti furent appelés Sikhs et semblaient attendre de nouvelles et plus claires manifestations. Il fut membre du comité de salut public du temps de Richard Cromwell. Après la restauration du roi Charles, il fut pendu en 1662. NXV Francis Raug et la Margaret Fell Londres, présumé être vers le premier mois, 1656. Dans cette ville, la vérité a autorité sur tous, personne ne tient plus maintenant à disputer, mais il se détourne. Nous avons environ 20 réunions par semaine astérisque dans cette ville, et dans un rayon de 10 ou 20 000, il y a de grands désirs, et si nous le pouvons, nous sortons, mais nous ne pouvons pas rester, grand est notre souci. De Launceston, nous apprenons cette semaine que les prisonniers s'y portent bien, et qu'ils ont une assez grande liberté. John Crook est en prison avec Thomas Stubb à Northampton. Edward Burroughs vous salue, il est presque à bout, peu connaissent notre condition. Francis Raugle collection de manuscrits du W, Canton. Astérisque noter que les premiers ministres Quakers à Londres sont maintenant passés à 20 réunions par semaine, une charge de travail énorme pour le petit nombre de ministres à Londres. Edward Burroughs était un puissant prédicateur de la vérité, surnommé le fils du tonnerre. L'un de mes récits préférés à propos de Burroughs eut lieu peu après son arrivée à Londres. Un soir d'été à Londres, il vit un groupe de travailleurs dans un champ tenir des combats de lutte après leur journée de travail. Burroughs s'approcha d'eux. Lorsque le match fut terminé, ils demandèrent si quelqu'un voulait entrer dans l'arène pour défier le vainqueur. Burroughs entra dans l'arène et se mit aussitôt à prêcher la vérité au milieu de ces brutes. Les hommes surpris écoutèrent attentivement, beaucoup étant convaincus et rejoignant les Quakers. Ainsi ce ministre intrépide du Christ prêcha-t-il avec une telle force de conviction que 10 000 âmes étaient Quakers à Londres en 1674. Edward Burroughs a laissé de nombreux écrits remarquables. Celui inséré ci-dessous est l'un de ses meilleurs. C'est la préface au texte de George Fox concernant la lumière, disponible en intégralité sur ce site. Préface à concernant la lumière ou terre, le témoignage est vrai et éternel, que Dieu a donné du Fils et que le Fils a donné du Père, et il demeure à jamais, le témoignage de vie à tous ceux qui croient, et le témoignage de mort à tous ceux qui ne croient pas, à savoir la lumière du monde, qui éclaire tout homme venant dans le monde, l'entrée dans la vie éternelle ou la condamnation à la destruction. Quiconque se détourne de la lumière du Fils de Dieu au-dedans de lui, et ne marche pas en elle, entre dans l'erreur et dans la voie de la perdition. Mais quiconque marche dans la lumière ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, Christ Jésus l'auteur et le consommateur de la foi, et il n'y a pas d'autre sauveur que lui, qui était, qui est et qui doit venir, la lumière du monde. Quiconque prêche un Christ auquel croire pour le salut, qui n'a pas éclairé tout homme de la vraie lumière, prêche un faux Christ, et non ce Christ dont les prophètes et Jean ont rendu témoignage, et dont les apôtres ont été témoins. Ainsi ceci est vérité de la part du Seigneur Dieu, il n'y a pas d'autre nom donné pour le salut que le nom de Jésus, et il n'y a pas d'autre Christ Jésus que celui qui éclaire tout homme venant dans le monde de la vraie lumière. Et si ce Christ Jésus n'est pas révélé par l'Esprit du Père au-dedans, le salut n'est pas reçu par lui. C'est pourquoi, tous les amis qui avaient reçu le témoignage de la lumière du Fils de Dieu en vous, et qui avaient cru au témoignage du Père et du Fils, retenez fermement la parole de ce témoignage, demeurez-y et marchez-y jusqu'au Père de lumière et de vie. C'est la puissance de Dieu, par laquelle vous serez gardés jusqu'au jour du salut. C'est la puissance de Dieu qui vous gardera de toute injustice, et ainsi de la condamnation. Si quelqu'un se détourne de la lumière, il se jette dans le mal et retombe de la vérité. Ceux-là porteront leur propre honte et condamnation, aux yeux de Dieu et de tous ses enfants. Car tel est le message qui était et qui est, que Dieu est lumière, et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Tous ceux qui demeurent dans la lumière, leur demeure est en Dieu, et ils connaissent un refuge au jour de la tempête. Et ceux qui demeurent dans la lumière sont bâtis sur le rocher, et ne peuvent être ébranlés, car quiconque est remué ou secoué s'éloigne de la lumière, et s'éloigne ainsi de sa force et de la puissance de Dieu, et perd la paix et la jouissance de la présence de Dieu. Car la lumière est l'œil par lequel la présence de Dieu est vue et ressentie. Tous ceux qui parviennent à la connaissance de Dieu doivent reconnaître la lumière dont Christ les a éclairés, car il n'y a pas d'autre chemin vers le Père de vie. C'est le témoignage qui, dans la puissance du Seigneur, a été porté et donné à travers les nations par ses serviteurs, et le jour de votre visitation est sur vous, nations et peuples. Auparavant, le Père a œuvré, et le Fils a œuvré, et la voix de la sagesse a été entendue, mais la nuit vient où nul ne peut travailler. Et tous ceux qui n'ont pas reçu le témoin que Dieu a donné concernant ce Fils, et tous ceux qui s'éloignent du témoignage de la lumière intérieure, et n'y persévèrent pas jusqu'à la fin, seront livrés à accomplir la mesure de l'iniquité, et à courir leur course dans la voie de la perdition, jusqu'à ce qu'ils soient scellés dans l'abîme de ténèbres et de condamnation, où il n'y a pas de repentir, et le Seigneur Dieu. Et tel est le témoignage qui m'est donné, afin que je rende témoignage, moi qui ne suis pas de ce monde, mais serviteur de celui dont le témoignage ne change jamais, qui est lumière. Londres, premier jour du 11 mois, 1656 Edward Burroughs, NXV Francis Haugill et Edward Burroughs à Thomas Aldam. Londres, 19 jour du 7e mois 9e mot, 1656 Chers frères, dans l'amour de notre Dieu, nous te saluons ainsi que tous les amis dans la vérité. Béni soit le Seigneur Dieu de puissance et de gloire, qui nous a appelés à une si haute vocation, rendre témoignage à son nom et publier l'Évangile éternel, louange éternelle à notre Dieu pour toujours. Chers frères, nous sommes avec vous dans vos liens, dans vos reproches et vos emprisonnements, et dans vos réjouissances, votre joie est la nôtre, car nous mangeons avec vous et buvons avec vous à la table de notre Père, où il y a une nourriture abondante pour tous ceux qui attendent son conseil et obéissent à ses commandements. Chers frères, notre souci est grand, la moisson est grande, qui est suffisant pour ces choses, voici des champs blancs pour la moisson, et beaucoup de la puissance de Dieu a été avec nous. Grand a été notre fardeau et notre œuvre depuis que nous sommes venus ici, et grande est notre récompense. Nous avons été très fortement poussés à administrer avec puissance et sagesse. Nous avons des réunions extraordinairement grandes de toutes sortes, et nous travaillons et peinons jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Priez pour nous, afin que nous soyons gardés dans sa puissance qui règne sur tout. Par la puissance du Seigneur, les bouches des lions sont fermées, les rois sont liés par des chaînes, louange éternelle et vivante à jamais à celui qui avance, conquérant en puissance et en grande gloire. Beaucoup sont amenés sous un grand jugement et une vraie puissance, et beaucoup ont appris leur propre condamnation. Le dernier premier jour, mon cher compagnon de joug et moi sommes allés le matin vers deux des plus grands théoriciens et des plus grands trompeurs de la ville, dans deux églises à clocher, où viennent les sages de la ville, et j'ai eu une grande liberté, et j'ai parlé près d'une heure. Tous furent silencieux, et quelques-uns confessèrent qu'ils n'avaient jamais entendu tant de vérités données avec puissance. Beaucoup m'invitèrent chez eux, mais nous n'imposons les mains à personne à la légère. James Lancaster et Milral Red sont venus ici, mais je crois qu'ils ne resteront pas longtemps ici. Richard Robeson est en prison à Cambridge. Thomas Holmes est aussi en prison à Chester, avec 7 ou 8 autres. Nous avons reçu des lettres de Candale, il y a 9 ou 10 personnes en prison là-bas et à Appleby. De Bristol, nous avons reçu des lettres de nos chers frères John Audlan et John Cam. La puissante puissance du Seigneur est de ce côté-là, c'est une ville précieuse et un peuple vaillant. Leur filet est près de se rompre de poissons, tant ils en ont pris là et sur toute la côte d'alentour. Puissante est son œuvre et sa puissance en ce jour qui est le sien. Poussez des cris de joie, vous tous les saints, car le Seigneur avance en puissance pour se faire un nom, et que tous ceux qui connaissent le Seigneur le louent, car sa miséricorde demeure à jamais. Le capitaine Amos Todar vous a écrit, à vous et à Samuel Watson, il a reçu vos lettres, mais je ne sais comment vos lettres adressées à Cromwell ou à d'autres au pouvoir peuvent être remises. Nous en avons trois ou quatre autres, mais nous ne trouvons pas d'élan pour les délivrer. Il y a une telle agitation autour du pouvoir de Cromwell, il mène tout d'une main de fer, 200 membres du Parlement sont rentrés chez eux. Mais quant à ces choses, elles ne sont rien pour nous, nous en avons été rachetés, louange au Seigneur à jamais, lui qui nous a fait régner au-dessus du monde et le fouler aux pieds, chers frères, adieu, saluez de notre part tous ceux qui sont fidèles selon la mesure reçue. Notre cher amour pour toi et John Killam, et tous les autres fidèles témoins du Seigneur, et saluez de notre part les femmes, nos chères sœurs, à Uxbridge York, si elles sont encore en prison. Vos frères dans l'œuvre du Seigneur, Francis Raugill Edward Burroughs. D'après une copie, il semble que ce soit une période du protectorat de Cromwell, où les républicains du temps se révélèrent trop réservés à son égard. Parmi les chefs de ce parti figuraient deux personnes nommées dans ses lettres, Van et Rich. Cromwell fit emprisonner ces hommes parce qu'il les jugeait peu soumis à son autorité. D'après l'histoire d'Angleterre de Mackintosh, vol. V.P. 217, nous apprenons que la session du Parlement se prolongea jusqu'au 17 septembre, soit deux jours avant la date de cette lettre. Cromwell, en cette occasion, recourut à un exercice du pouvoir si arbitraire et si général qu'il rendit la convocation du Parlement dérisoire. Les membres, après avoir entendu le discours du protecteur dans la chambre peinte, se rendirent à leur chambre. Ils trouvèrent la porte gardée par des soldats, qui n'admirent que se munis d'un certificat d'approbation du Conseil de Cromwell, signé par le greffier du Commonwealth. Ce billet avait été refusé à environ 100 membres, et ils furent exclus. C'était le Parlement qui siégea sur l'affaire James Nelly. NXV, nous sommes maintenant parvenus à la période de la chute de James Nelly et de son mémorable procès devant la Chambre des communes. Pour tous les détails relatifs à cet événement lamentable de sa vie, son procès, sa sentence cruelle, et sa condamnation et pénitence ultérieure, on les trouvera dans l'histoire de Saul à cette date, dont le récit occupe de nombreuses pages. Le journal de Thomas Burton fournira aussi de nombreux détails sur ce qui se passa à la Chambre des communes à propos de son cas. Burton était membre de la Chambre et fut, semble-t-il, présent la plupart du temps durant ses procédures. James Nelly était un prédicateur éloquent. Comme tous les ministres Quakers de Londres, il était submergé par les milliers de personnes qui affluaient à leurs réunions. Il était si occupé qu'il négligea de demeurer dans la lumière, afin d'être purifié et renouvelé par le Christ, et lorsqu'un groupe d'admiratrices commença à le flatter, il glissa lentement vers l'abîme, pour finir par une chute massive. Mais la chute de Nelly, dont il se remit plus tard, n'était pas un crime. Il fut entêté, stupide et ridicule, mais pas un criminel. Il fut jugé comme un criminel, sous l'accusation de blasphème, mais il n'a rien fait de blasphématoire. Il subit un châtiment injuste et horrible, de la part d'un Parlement qui avait déjà persécuté violemment des milliers de Quakers. Le Parlement utilisa son comportement scandaleux comme prétexte pour écraser les Quakers, tentative qui échoua heureusement. Mais le manque de discernement de Nelly, son entêtement à refuser d'écouter les trois avertissements verbaux de Fox, ainsi que deux avertissements écrits, et son refus de se désolidariser de ses admiratrices obséquieuses, créèrent une catastrophe pour les Quakers. Voir l'échec de Naylor pour des détails. Son échec continue aujourd'hui de tourmenter l'espérance de la véritable Église du Christ en 2007, il existe encore un festival annuel, couvert par les médias du monde entier, rejoint son échec, son arrestation et son châtiment à Bristol. Cela jette un mauvais jour sur les premiers Quakers, 350 ans plus tard. 2. Beaucoup de Quakers modernes s'identifient davantage à Nelly qu'à Fox. Ils peuvent comprendre Nelly, le pécheur, mais ne peuvent accepter Fox et d'autres premiers Quakers comme purs. Ignorer Fox tout en se concentrant sur l'échec de Nelly rend irréaliste la recherche ou l'atteinte de la pureté. Plusieurs sites web Quakers vont jusqu'à présenter Nelly comme un meilleur prédicateur que Fox et à sympathiser avec les manquements de Nelly, tout en minimisant les témoignages de Fox, Pennington, Penn, Crisp, Dewsbury, Parnell, Burroughs, Raugill et Hall. Concernant la régénération, le baptême de mort et le fait d'avoir été transporté dans le paradis du royaume de Dieu, demeurant en la présence de Dieu, parlant ainsi les paroles de Dieu telles qu'il les recevait de Dieu. L'ensemble de la tragédie de Nelly, y compris son repentir inspiré et son rétablissement, est disponible à la lecture sur ce site. Parmi les nombreux discours rapportés en résumé par Burton, durant les débats prolongés sur l'affaire James Nelly, celui de Lord Lambert peut être cité ici, comme presque le seul digne d'attention. L'ensemble du tableau du tempérament et des procédures de la Chambre des communes à cette occasion offre une vision étrange et humiliant le caractère de cette assemblée et l'esprit de l'époque. Lambert était membre du conseil de Cromwell, général dans son armée, et député M.P. pour le West Riding du Yorkshire. Lord Lambert, C'est une source de tristesse pour le cœur de beaucoup d'hommes, et de tristesse pour le mien aussi, surtout eu égard à sa James Nelly relation autrefois avec moi. Il fut 2 ans mon quartier maître et une personne très utile. Nous nous sommes séparés de lui avec regret. C'était un homme dont la vie et la conduite étaient sans le moindre reproche, et un membre d'une société très douce d'une église indépendante. Lambert était un indépendant congrégationaliste, comme l'était Nelly avant d'être convaincu. Comment il en est venu, par orgueil ou autrement, à s'enfler de cette opinion, je ne puis le déterminer. Mais que ceci nous serve d'avertissement à tous de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Journal de Burton, vol, IP 33, Richard Robeson à Margaret Fell, Londres, 25 jours du 9e mois, 11e mot, 1656. Chère sœur, mon cher amour te salue ainsi que le reste de ta famille et tous les fidèles des environs. J'ai été dans les comtés de Lay, Essex, Suffolk et Norfolk, où le service du Seigneur est grand et les ouvriers peu nombreux. Et comme le labeur est grand, ainsi est la récompense qui est sa puissance et sa présence pour accompagner son œuvre. À présent, je suis remonté à Londres, mais il est probable que je ne resterai pas longtemps dans la ville et que je passerai à l'ouest vers Bristol et le sud du pays de Galles, si le Seigneur le veut. James Nelly est ici à Londres. Lui et les femmes sont gardés comme prisonniers dans une auberge et ont été appelés 2 fois devant une commission de parlementaires et interrogés pour savoir s'ils reconnaîtraient que James Nelly était le Christ, mais il les a privés de toute occasion contre lui, disant qu'il n'y ait que James Nelly fût le Christ, mais que le Christ était en lui. Plusieurs fois, certains parlementaires sont venus à l'endroit où ils sont gardés prisonniers, l'interrogeant sur des choses qui furent accomplies par lui et par les femmes, dans leur témoignage qu'il l'était, mais il les éludait parfois sans leur donner une réponse complète et les laissait insatisfaits. Le 6e jour dernier, j'étais avec James. Cette puissance de ténèbres dans les femmes règne sur lui, comme je te l'ai écrit au début. Beaucoup de gens viennent chaque jour auprès d'eux, tant du monde que parmi ceux qui sont convaincus, et ils s'étonnent des imitations qui se jouent parmi eux, car souvent elles s'agenouillent devant lui, etc. James parle assez longuement aux amis, comme pour justifier toutes leurs actions comme étant dans l'innocence. J'ai été poussé à lui parler quand j'étais avec lui, mais il n'était pas disposé à m'entendre exposer la vérité de quoi que ce soit devant le peuple. Mon cœur fut amené à plaindre son état, mais, dans l'état présent où il est, tout le conseil des frères à son égard est rejeté, bien que des entrailles de tendresse lui aient été accordées. Quelques instables pensent qu'il y a une grande puissance parmi eux, mais bien qu'elle obscurcisse certains pour le moment comme un nuage s'étant élevé de la terre, à la fin des jours de limitation, elle retombera à terre, le soleil brillera au-dessus, et les enfants recevront la puissance du Fils pour régner sur toute tromperie. J'ai écrit ceci afin que tu comprennes quelque chose de son état tel qu'il est. Ton cher frère, Richard Robeson, d'après la collection de manuscrits de W. Caton à Swarthmore. Parmi la collection de lettres de Swarthmore, on a trouvé l'adresse suivante de George Fox à James Nelly à cette époque. Elle est ainsi annotée par George Fox, GFF to James Nelly 1656. Et au bas se trouve un mémorandum de la même écriture que celle de la lettre, à savoir, ceci est une copie de la lettre qui fut trouvée en sa possession lorsqu'il fut interrogé. George Fox à James Nelly. James, tu dois porter ton propre fardeau et celui de ta compagnie avec toi, dont l'iniquité augmente et contre laquelle tu ne cries pas. Tu as satisfait le monde, oui, leur désir, ce qu'ils attendaient. Toi et tes disciples, et le monde est uni contre la vérité, cela est manifeste par ton obstination et ton entêtement, et telle est la parole du Seigneur Dieu à ton égard. Beaucoup ne s'attendaient pas à ce que tu sois un encourageur de tels gens, comme ceux qui crient contre la puissance et la vie de la vérité, mais plutôt que tu serais de ceux qui nourrissent la vérité, et que tu n'aurais pas formé une compagnie contre elle. Et qu'est-ce donc qui accomplit la prophétie du monde et leur désir? Considère donc, et examine-toi, si ceci est innocence. Je reconnais la lumière de Dieu en vous tous, mais ceci je le juge. George Fox pour James N. Ceci, la lettre ci-dessus de George Fox à Nelly, est un jugement très doux à l'égard d'un individu très obstiné, refusant plusieurs avertissements écrits et verbaux antérieurs de Fox. Et Nelly fut un individu nuisible, car ses actions avaient engendré une peste de persécution, de la part d'individus et de gouvernements, contre les Quakers. À travers toute l'Angleterre, les Quakers furent alors violemment attaqués, dans les réunions et en public, comme de dangereux hérétiques. En conséquence, beaucoup pensèrent que les Quakers tomberaient, mais ils se rassemblèrent et continuèrent de prospérer. Le jugement doux de Fox sur Nelly ci-dessus est caractéristique de la sagesse qui vient d'en haut. D'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Jacques 3, 17. Jésus nous a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matt 7, 16. Le fruit de l'Esprit Saint est douceur, bonté, patience, amour, joie, paix, fidélité, bienveillance, maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Il semblerait, d'après la lettre suivante copiée d'un volume de manuscrit du British Museum, que Cromwell ait été incertain quant à l'orientation des procédures et de la sentence de la Chambre des communes dans le cas de James Nelly, lettre du Lord Protecteur au Parlement, au sujet de la sentence prononcée par eux contre James Nelly. Oliver Cromwell était appelé Oliver Protector, ou O.P. O.P., très fidèles et bien-aimés, nous vous saluons. À notre très fidèle et bien-aimé ce Thomas Whittington, chevalier, président du Parlement. Ayant pris connaissance d'un jugement récemment rendu par vous contre un certain James Nelly, bien que nous détestions et abhorrions l'idée de donner ou de provoquer le moindre appui à des personnes de telle opinion et pratique, ou qui soient sous la culpabilité de tels crimes, comme ce qu'on impute communément aux petites personnes, néanmoins, étant chargé du gouvernement présent au nom du peuple de ces nations, et ne sachant jusqu'où une telle procédure entièrement sans nous peut s'étendre en ses conséquences, nous désirons que la Chambre nous fasse connaître. Donné à Whitehall, le 25 décembre 1656 dans le journal de Burton, vol. IP 246, nous avons un compte-rendu des débats de la Chambre lors de la lecture par le président de la lettre ci-dessus. Le récit est curieux, un certain nombre de membres semblent confesser l'extension injustifiée, sinon illégale, de l'autorité de la Chambre dans ses procédures et sa sentence contre James Nelly. Le débat sur la lettre du protecteur est prolongé par des ajournements de temps à autre. La Chambre, en fait, semble incapable de donner un compte-rendu équitable des fondements et des raisons sur lesquelles elle a procédé à une telle sentence. Plusieurs membres demandent la nomination d'une commission pour préparer une réponse au protecteur. Finalement, l'affaire étant spécialement ajournée à l'ordre du jour d'un jour futur, l'affaire du jour, c'est-à-dire une réponse à la lettre, devient, comme l'écrit Burton, et évincée, et personne n'en dit un mot. J'entends, ajoute-t-il, qu'on ne la mentionnera plus jamais, si on le fait, je redoute les conséquences. Cet intéressant diariste parlementaire poursuit, « Je n'ai rien écrit ce jour-là à la Chambre. Un ami m'a dit qu'on le remarquerait, il en a entendu beaucoup parler la veille. Le colonel m'a dit il y a une semaine qu'avait l'intention de m'abattre. » Burton, toutefois, ne laisse pas tomber son carnet pour autant. Enxix Richard Robethon à Suelikem à RGAR Tefel Londres, 10 jours du 12e mois, 1656 deuxième mot. 1657 quant à James Nelly, il est à Bridewell et il n'autorise que peu de personnes à venir à lui. Ses femmes disciples fixent parfois des réunions dans les lieux les plus publics de la ville, comme à la Bourse et aux endroits où James Nelly a souffert. Depuis la Bourse, ils en envoyèrent certains en prison à Bridewell. Ils sont actuellement une grande offense à la voix de la vérité ici, mais la vérité œuvrera à travers tout cela. Bien que les eaux de la discorde soient en crue pour le moment, l'eau de la vie s'écoule pourtant doucement, et de ses courants agréables boivent ceux qui demeurent patients dans la volonté de Dieu. Et la vie, la puissance et la gloire sont plus manifestes que jamais de la part du Père. Richard Robethon dans une lettre datée de Londres, le 22 au jour du 12e mois, 2e mois 1657, il écrit ainsi. Quant à James Nelly, il demeure à Bridewell, et on le tient au secret, il n'autorise aucun ami à l'approcher, mais sa femme parvient parfois à le voir. Il est toujours dans la séparation d'avec la vérité et d'avec les amis, mais l'œuvre de Dieu avance et prospère. Alexander Parker est ici, Edward Burrough est dans l'Essex, et Francis Raugle dans le Kent, d'après la collection de manuscrits de W. Caton ci-dessous se trouve la lettre N149 de George Fox à tous les amis, afin de se connaître les uns les autres dans la lumière, une communion spirituelle dans la lumière, mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. 1 Jean 1 7 George Fox aux amis, afin de se connaître les uns les autres dans la lumière. Tous les amis partout, réunissez-vous, et attendez dans la mesure de l'Esprit de Dieu, afin que par lui toutes vos pensées puissent être conduites vers Dieu, pour recevoir de Dieu la sagesse, afin que vous veniez tous à savoir comment vous pouvez marcher vers lui dans sa sagesse, afin que cela soit justifié en vous, et que vous y soyez préservés jusqu'à Dieu, et soyez glorifiés. Et amis, réunissez-vous, et connaissez-vous les uns les autres en ce qui est éternel, ce qui était avant que le monde fût. Car ne se connaître les uns les autres que selon la lettre et la chair vous distingue peu des bêtes des champs, car ce qu'elles connaissent, elles le connaissent naturellement. Mais vous connaître, tous les uns les autres dans la lumière qui était avant que le monde fût, cela vous distingue des bêtes des champs et de la connaissance du monde, et vous amène à vous connaître les uns les autres dans la semence élue qui était avant que le monde fût. Et si vous vous détournez de cette lumière, vous devenez étranger, et ainsi, en négligeant les réunions, vous vous refroidissez, et vos pensées s'enfoncent dans la terre, et vous devenez las et paresseux, et néglige, et lourd, et stupide, et engourdi, et mort. Vous pouvez alors parler de choses qui furent autrefois ouvertes depuis la lumière, bien que maintenant vous vous en soyez détournés, Mais dans la lumière où est l'unité, tout cela est condamné. Dans laquelle lumière est la communion avec le Fils, d'où vient la lumière, qui conserve la vivacité, qui préserve de la paresse, et de toutes les choses mentionnées ci-dessus, qui sont contraires à la lumière, et celui qui s'en détourne se tourne vers elle. Attendez donc dans la lumière et marchez-y, afin que vous ayez communion les uns avec les autres. Je vous enjoins tous, en la présence du Dieu vivant, de ne point vous glorifier au-dessus de votre mesure de lumière, si vous le faites, vous serez rudoyés. Car tel se jette dans la présomption, et ainsi dans le reproche. Et ce reproche, cet esprit ne le supportera pas patiemment, mais s'élève dans la présomption, laquelle doit être condamnée par la lumière, où est l'unité, qui préserve du désespoir et de la présomption. Ceux qui s'éloignent de la lumière, l'ennemi entre en eux, et l'envie, et le meurtrier se lève au-dedans et tue l'homme, et un tel n'a pas la vie éternelle demeurant en lui, car il s'est détourné de la lumière qui vient de Christ Jésus, la vie. Tous ceux qui demeurent dans la lumière qui vient de Christ reçoivent la vie éternelle. Et ici l'amour de Dieu est répandu dans le cœur, et en demeurant dans l'amour, vous demeurez en Dieu, et de la vie coule l'amour éternel, laquelle vie vient du Père de vie, dont l'amour ne change pas. Ainsi par la lumière vous y demeurant, elle qui conduit à la vie, vous viendrez à témoigner d'une foi sans feinte et d'une humilité sans feinte, et de la foi qui agit par l'amour, qui purifie le cœur, en attendant dans la lumière qui vient de Christ Jésus, cela est reçu de lui. Car par la lumière l'homme se voit lui-même, laquelle lumière vient de Christ, qui est l'auteur et le consommateur de sa foi, laquelle foi lui donne la victoire sur ce qu'il voit être contraire à la lumière et à la parole. Et c'est là l'unique foi, et ici le premier Adam et le second Adam sont connus et vus. George Fox, que ceci soit lu parmi les amis partout. NXX Richard Robethone à George Fox, Londres, 16 jours du premier mois, troisième mot. 1657 Chers frères, les amis ici vont bien, et sont en bon ordre, grandissant dans l'amour et la vie de la vérité, et sentant en eux sa vertu et sa puissance, et les réunions sont assez tranquilles. Les amis de la Nouvelle-Angleterre vont bien, et ceux qui étaient prisonniers à Boston ont été libérés et se dispersent par divers chemins, certains vers la Barbade. William Ham est sorti de Hollande, et aujourd'hui il a pris la route de Bristol, et il a l'intention de remonter bientôt vers le nord, vers toi. Cette semaine, le maire, les échevins et les conseillers municipaux de cette ville sont montés à Whitehall pour rendre visite à Olive, et il leur a fait un discours concernant le danger des ennemis, et Charles, prêt en Flandre, sur le point de traverser avec une armée pour entrer en Angleterre. Dans sa déclaration, il parla plus contre les amis qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, disant qu'une bonne loi avait été faite contre les Quakers, et qu'il faisait bien de l'exécuter, et qu'il les soutiendrait. Car, disait-il, les Quakers étaient contre la magistrature comme contre le ministère. Ainsi Cromwell et eux tous se sont endurcis contre la vérité, et toutes leurs prétentions à mettre les amis en liberté, dont ils s'occupaient autrefois, ont maintenant cessé, et ils ne complotent plus que pour s'exalter sur la terre. Francis Raugel est encore dans l'Essex ou de ce côté-là. Il y a un grand service dans cette ville et aux alentours. L'amour des amis ici t'est cher. Richard Robethone, d'après l'original, il ressort du journal de Burton qu'après le prononcé de la cruelle sentence contre James Nelly, la Chambre des communes procéda à recevoir plusieurs pétitions contre les Quakers, présentées de diverses régions du pays, à la suite de quoi s'en suivit un débat, et les pétitions furent renvoyées au même comité que celui qui avait siégé sur l'affaire de James Nelly, afin qu'il présentât un rapport sur « un projet de loi pour réprimer le mal ». Au cours de ce débat, de nombreux membres pressèrent qu'une mesure prompte soit prise contre ce peuple. Lundi, la secte est dangereuse, son accroissement est considérable, la prévention est très nécessaire. Plusieurs autres informent la Chambre qu'ils deviennent très nombreux en divers endroits du pays. Le député du Cumberland déclare qu'ils se réunissent en multitude, et sur des Landes in terrorem populi, pour la terreur du peuple. Un autre, le député du Devonshire, qu'ils se réunissent par milliers dans notre comté, et qu'ils submergeront assurément tout, tant ministres que magistrats. Je désire que vous ne retardiez point cette affaire. Avant longtemps, il sera trop tard pour faire une loi. Il n'y a guère de doute que, par suite de l'affaire Nelly et de l'attention grave qui porta la Chambre des communes, un fort préjugé public fut injustement nourri contre les amis de cette époque, bien qu'ils ne fussent en rien impliqués dans l'offense de James Nelly, ni responsables de celle-ci. Le Parlement, toutefois, poursuivit l'examen d'un projet de loi contre les vagabonds, rédigé de telle sorte qu'il pouvait aisément être utilisé contre les amis. C'est probablement la loi à laquelle le protecteur fait allusion ci-dessus. Elle prescrivait que toute personne oisive, vagabondant hors de son lieu habituel de vie ou de résidence, et qui n'aura pas une cause ou un motif aussi bon et suffisant pour ce voyage ou cette errance, que les juges ou juges de paix, maires, etc. devant lesquels cette ou ces personnes seront traduites, jugeront acceptables, seraient poursuivies et punies comme avoriens, Scobell's Act 1657, chap. 21. La première mention du nom de Quakers dans les archives du Parlement figure dans le journal de la Chambre des communes de l'année 1654, d'où est tiré l'extrait suivant, samedi, 30 décembre 1654. Renvoyé à un comité composé de plusieurs membres, ou de trois quelconques d'entre eux, pour préparer un projet de loi, à l'issue d'un débat de la Chambre au sujet des Quakers, avec pouvoir de recevoir des informations des membres de cette Chambre ou d'autres, touchant ces personnes, afin de mieux les décrire dans ce projet de loi. No XZ Richard Farnsworth aux amis Wormsworth le 18 du 7e mois, 9e mois, 1657. J'ai reçu récemment plusieurs lettres de James Nelly, et l'une je l'ai reçue aujourd'hui, d'où il apparaît qu'il a une grande conscience de son état, et qu'il est plein d'amour, humble, tendre et abaissé. Il a aussi exprimé que son amour est grand pour tout le troupeau fidèle. Ils lui ont amené un grand prêtre, comme sa lettre l'exprimait, et beaucoup de ceux qui étaient venus avec lui ont vu la folie du prêtre, ce qui a réduit au silence beaucoup de gens, mais a enragé le prêtre. Il demande les prières des fidèles. Que Dieu Tout-Puissant soit avec vous, qu'il vous bénisse, vous préserve et vous garde, vous et tous ses bien-aimés, fermes et fidèles à lui-même, au jour de l'épreuve et à l'heure de la tentation, comme j'espère qu'il le fera, ainsi soit-il. Amen. Je suis à vous comme vous êtes au Seigneur. Adieu, Richard Farnsworth. No. XZ Richard Robeson à Margaret Fell, Londres, le 5 du 11e mois 1657, 1er mois 1658. Ma chère sœur M. F. Le Seigneur ouvre à beaucoup une entrée dans la vérité éternelle et les rassemble dans sa vie, et la vérité œuvre secrètement. J'ai traversé l'Essex, le Suffolk et le Norfolk, où je suis resté environ 5 semaines dans un grand service. Puis j'ai été poussé à monter à Londres, et j'avais quelque chose sur moi au sujet d'Olivier Cromwell, auquel j'ai déjà écrit. Certaines souffrances des amis lui ont été exposées récemment, elles sont si cruelles qu'il est très offensé contre les juges de paix qui les ont causées, et il promet de faire quelque chose. Ici, beaucoup dans cette ville sont chaque jour convaincus, et la vérité grandit. Le dernier premier jour, il y avait 5 personnes de la famille de Fleetwood Astérisque à la réunion à Worcester, et la vérité se répand et prend le dessus, et les amis grandissent dans le sentiment de sa puissance. Astérisque Fleetwood était Lord Lieutenant d'Irlande en 1657 et membre du conseil de Cromwell. Il avait épousé une fille du protecteur. Je suis allé voir James Nelly 3 fois depuis mon arrivée. Il est plein d'amour, et son amour augmente, et il reçoit du réconfort de ceux qui sont dans la vie et la puissance de la vérité. Saluez de ma part, bien affectueusement, tous les amis. Adieu, votre cher frère, Richard Robeson, tiré de la collection manuscrite de W. Caton dans les Stat Papers de Nickel, p. 143, se trouve une lettre adressée à Cromwell par un certain William Malin, datée d'août 1668, d'où l'on extrait ce qui suit. Il n'est pas improbable que Cromwell ait eu l'intention de faire libérer James Nelly, mais il mourut le 3 du mois suivant celui de la date de cette lettre. James Nelly fut libéré par le Parlement après la mort de Cromwell. Quant au mutisme de J. Nelly, tel qu'il est mentionné dans cette lettre, il est probable que, pour la paix de son esprit, il lui était préférable de garder le silence envers ceux du monde qui s'introduisaient auprès de lui. L'auteur de la lettre paraît assez fortement se tromper sur l'état de James Nelly. Je suis allé ce matin à Bridewell pour voir James Nelly. Je l'ai trouvé dans son lit, assis, la tête sur un oreiller, ayant été malade. Je suis resté assis près de lui un bon moment, et je lui ai dit pour quelle raison je venais voir comment il se portait, et s'il désirait que quelque chose fût fait pour lui ou à son égard. Il ne voulut pas dire un mot, bien qu'il y fût souvent pressé par moi et par ceux qui se tenaient là. Je me retirai aussi quelque temps et je revins vers lui, et je lui demandai s'il était disposé à avoir quelque entretien avec moi, ou s'il avait quelque chose à désirer que je fisse savoir à votre Altesse. Mais malgré tout ce que je pus faire, je ne pus lui arracher un mot. Comme on approchait de l'heure du sermon, je le quittai et allai à Saint-Paul. Nelly avait été malade. Après le sermon, je parlai avec mon Lord Pack, mon Lord Tichbourne et mon Lord Boxted étant là, et je rendis compte à mon Lord Pack de ce que j'avais fait, et mon Lord Pack me dit qu'il avait l'intention demain d'aller trouver votre Altesse, pour lui donner un compte rendu particulier au sujet de James Nelly. Vraiment, mon Lord, je le considère comme étant dans une bouderie résolue, et je crains au plus haut point de l'orgueil. J'espère que je ne chercherai pas à dissuader votre Altesse d'une œuvre de tendresse et de miséricorde, qui est agréable à Dieu. Nous avons assez de raisons et d'objets pour cela, sans faire ce qui peut offenser Dieu, faute de zèle pour sa gloire et son honneur, contre de si horribles impiétés. Vraiment, mon Lord, dans ce cas, je conçois qu'il y a davantage manque de vigilance, afin que nous n'offensions pas sur ce point, je veux dire faute de zèle. William Melne dans une autre lettre de R. Robeson à George Fox de cette année 1657, il dit en post-scriptum, après avoir parlé de ses propres services dans le Kent, « J'ai été deux fois avec John Lilburne, il est zélé et ardent pour la vérité. Il a une vue et une compréhension profonde. Il voit que la vérité embrasse tout, il lui porte de l'amour et il désire l'atteindre. No. » XXI les lettres ci-dessus, avec les deux suivantes, qui font allusion à James Nelly, tant à l'égard de sa chute que de son retour en communion avec ses frères, et ensuite, comme nous le verrons, de son retour au service de l'Évangile, sont très intéressantes et instructives à plusieurs égards. Les remarques suivantes sont tirées d'un ouvrage publié par Joseph Wyeth en 1699. James Nelly était un homme que Dieu avait grandement favorisé, d'une bonne mesure de grâce, qui lui eût suffi s'il s'en était tenu à son enseignement. Car tant qu'il le faisait, il était exemplaire en piété et d'une grande humilité. Il était puissant en parole et en doctrine, et par là un instrument dans la main de Dieu pour détourner beaucoup de l'obscurité vers la lumière et de la puissance de Satan vers la puissance de Dieu. Mais lui, pauvre homme, s'éleva au-delà de toute mesure par l'abondance des révélations, et dans cette exaltation, il s'écarta de la grâce et du Saint-Esprit de Dieu qui avait été pour lui un maître suffisant. Alors l'aveuglement vint sur lui, et il se laissa tenir pour au-dessus de ce qu'il devait. Là il glissa et tomba, mais non sans possibilité de relèvement, car il plut à Dieu, dans son infinie miséricorde, au jour de son affliction, de lui donner vue et sentiment de ses écarts, et aussi un lieu de repentance. Et lui, avec le prodigue, s'humilia pour ses transgressions, et supplia Dieu, avec une vraie contrition de l'âme, de pardonner ses offenses par Jésus-Christ. Dieu, j'en suis fermement persuadé, lui pardonna, car il pardonne aux véritablement repentants. Son peuple le reçut avec une grande joie, parce que lui, qui s'était égaré loin de Dieu, était maintenant revenu à la maison du Père, et parce que lui, qui s'était séparé de par son iniquité, était maintenant, par la repentance et l'abandon de celle-ci, revenu à l'unité de la foi et à leur sainte communion dans l'Évangile du Christ. Que nul ici n'insulte, mais que tous prennent garde de peur que, eux aussi, à l'heure de la tentation ne s'éloignent. Joseph Wyeth, Switch for the Snake Alexander Park à Margaret Fell, Londres, le 15 du 4e mois, 6e mois, 1658. Ma très chère sœur bien-aimée, je suis allée voir James Nelly en prison trois fois depuis mon arrivée dans cette ville, et le véritable amour et la vie jaillissent en lui. Il est rendu disposé à tout supporter, et ferait tout ce qui, dans la sagesse de Dieu, pourrait être jugé convenable pour ôter toutes les occasions autant qu'il est en lui, soit par une rétractation publique que je ne juge pas utile pour exalter la vérité, soit par tout autre moyen. Il est rendu disposé à tout porter et à se soumettre à tout, et il a passé par un verri. James a écrit quelques mots avec beaucoup de soumission, désirant être réconcilié, et je sais que George Fox lui est plus cher que jamais, comme je l'ai entendu par ses paroles. Ma chère sœur, comme vous avez été tendre et pleine de grande compassion envers les souffrants, je vous supplie d'intercéder pour lui, afin que, dans un esprit de douceur, comme un frère, il puisse être rétabli. Je vous parle avec simplicité, n'ayant rien d'autre dans le cœur que la gloire et l'avancement de la vérité en cette affaire, et la paix et l'unité entre frères. Je sais que cela pèse sur George Fox. Avec patience, j'attendrai de voir la vérité s'élever au-dessus de tout, car j'ai grand espoir que tout ira bien. Votre cher frère dans la communion de l'Évangile, Alexander Pock tiré de la collection de W. Catonneau, XXIV James Nelly à Margaret Fell, endossé par George Fox 1658. Très chère sœur bien-aimée, vous êtes souvent dans mon souvenir, et mon cœur désire vous voir quand Dieu le voudra, dans le conseil et la vie de qui je désire marcher pour sa louange seule, lui qui m'a jusqu'ici racheté d'une profonde adversité et œuvre encore avec moi et pour moi, comme je demeure dans sa patience et son obéissance, me frayant un chemin au milieu de bien des oppositions et des épreuves. Dans sa seule volonté, je désire reposer et demeurer tranquille, lui qui, au temps nécessaire, s'est toujours manifesté, louange à lui pour toujours. Je suppose que vous avez peut-être entendu parler de ma démarche pour aller voir notre bien-aimé George Fox à Reading, ce que j'ai fait par tendre amour, dès que je suis sorti de prison, ayant appris qu'il n'allait pas bien. Mais il ne me fut pas permis d'aller là où il se trouvait, ce dont mon adversaire se réjouit, afin d'ajouter tristesse à l'affliction. Mais mon esprit fut apaisé dans la simplicité où j'étais allé et dans celle où je revins. Et il me donna sa paix en cela, comme si j'avais eu ce que je désirais, béni soit le Seigneur Dieu de ma miséricorde pour cette chose, lui qui demeure ma paix, et dont la présence est avec moi dans ce vers quoi il me meut, ce qui est ma consolation et mon rafraîchissement, et ainsi sa volonté est ma paix. Mon cher amour à vous et à votre famille, et à tous les amis fidèles auprès de vous, je suis rafraîchi lorsque je vous sens près de moi, ou lorsque j'ai de vos nouvelles, dans ce en quoi nous ne pouvons être séparés, d'après l'original. Il porte un sceau de James Nelly et est adressé, pour Margaret Fell, à Swarthmore à remettre. Il est rare de trouver son nom écrit en toutes lettres, les initiales étaient courantes, No, XXV Edward Burroughs à Francis Haugill. Londres, le 24 du 7e mois, 9e mois, 1658. Tout va très bien ici, et nos réunions ces derniers temps sont très paisibles et précieuses, et toujours nombreuses, et maintenant, à Westminster, nous avons un grand lieu, aussi grand que le Bull and Mouth, un près de la Baille, où les premiers jours nous avons des réunions. La vérité se répand et grandit. Le comte de Pembroke a été avec nous, un principe de Dieu s'éveille en lui. Ce soir, le comte de Pembroke a assisté à notre réunion chez William Woodcock II. Il nous est vraiment plein d'affection. Un nom curieux. La maison de réunion Quake du Bull and Mouse était située sur Bull and Mouse Street, corruption verbale de Boulogne Gatou Mouse, ainsi nommée en l'honneur du roi Henri VI, qui prit le port français de Boulogne et elle, embouchure, en 1544. C'était à l'origine une ancienne grande maison, ou bâtiment à l'intérieur d'Aldersgate, sa cour ayant auparavant servi d'auberge publique pour voitures et voyageurs, nommée le Bull and Mouse. Deux dans la vie de Gilbert Lattay, on trouve un récit des divers lieux de réunion à Londres. Parmi eux, il est indiqué qu'une réunion se tenait dans la maison de William Woodcock, qui habitait le Strand, entre la grande porte de Somerset House et sa porte sur l'eau. Tout est très tranquille, quant à l'extérieur, dans la cité, et les souffrances ont été exposées à ce nouveau protecteur, Richard Cromwell astérisque, qui conduit ses affaires convenablement. Plusieurs ont été auprès de lui. J'ai été poussé à lui écrire une longue lettre. Il y a quelques agitations dans son conseil qui sont maintenant les principaux acteurs en toutes choses. Au sujet de la libération de tous nos amis, une liste de plus de 100 a été remise. Astérisque à la mort d'Oliver Cromwell, son fils Richard Cromwell lui succéda comme protecteur. Son gouvernement ne dura que 8 mois, au terme desquels le roi Charles y remonta sur le trône. William Caton a été ici une semaine et est parti dans le Kent. Thomas Roberts était ici la semaine dernière et est parti dans le Hampshire. Richard Robeson est maintenant vers Newcastle pour l'Écosse. Je demeure un peu pressé, votre dévoué, Edward Burroughs, d'après l'original No. XXV Richard Robeson à Margaret Fell, Londres, le 22 du 8e mois, 10e mois. 1658 Chères sœurs, avec mes chers frères et sœurs, dans la tendre amour de Dieu je vous salue tous, vous qui, dans la mesure de l'Esprit de Jésus, êtes unis comme membres vivants du corps, à Christ la tête. Très chers bien-aimés, l'œuvre du Seigneur avance en puissance et dans l'autorité du Tout-Puissant, qui règne au-dessus des têtes des méchants. Dans cette ville, le Seigneur en rassemble beaucoup chaque jour. Il y a de nombreuses réunions, pleines et grandes, partout où il y a quelqu'un pour déclarer la vérité parmi eux. La puissance de la vérité lutte jusque chez ceux qui sont grands sur la terre et les attire chaque jour. Les prêtres confessent qu'il y a parmi nous une telle puissance que nul, venant à nous, ne peut s'en échapper. Et il exhorte les gens à ne pas venir à nous. Le dernier premier jour, j'étais au Bull and Mouse, où il y eut une grande réunion utile. Une partie du jour, j'étais à Westminster, où il y eut une grande réunion, et beaucoup de soldats, qui sont assez fidèles selon leurs mesures. James Nelly était à 2 réunions, et l'après-midi il y eut une grande réunion, où beaucoup furent convaincus qu'ils n'étaient pas venus auparavant, car il y a chaque jour de nouveaux venus à chaque réunion. Aujourd'hui, si le Seigneur le veut, je dois sortir de la ville vers Dunstable pour tenir une réunion demain, où un enseignant baptiste a promis d'être présent, et beaucoup de gens comptent y assister. Le lendemain, je me propose d'être chez le juge Crook, et je m'attends à rencontrer mon frère George Fox cette semaine. Saluez bien affectueusement de ma part tous les amis. Richard Robeson, tiré de la collection manuscrite de Caton. Voici une autre lettre insérée, 169 de George Fox, écrite alors qu'il était à Londres, à toutes les réunions des amis. George Fox à toutes les réunions des amis. Londres, le 11 du 3 au mois, 1658, à tous les élus, choisis et fidèles, qui êtes de la royale semence de Dieu, pierre vivant, élu et précieux, lié, édifié ensemble, et uni famille et maison de Dieu, et venu à sa montagne, établi au sommet de toutes les montagnes. Vous qui marchez dans la lumière du Seigneur, dans l'unité et l'alliance avec Dieu, dans l'alliance de vie et de paix avec lui. Vous qui, en ce jour de l'agneau, êtes l'or éprouvé au feu. Vous qui avez été éprouvé par des saisies de biens, par des obligations. Parmi vous l'étoile de Jacob est vue, et l'étoile du matin s'est levée, et le soleil de justice brille, et la voix de l'agneau est connue. L'Église dans sa gloire et sa beauté est apparue et apparaît. Le mariage de l'agneau et l'épouse et le jour des noces sont connus où il y a unité. Et les vierges chantent des louanges et suivent l'agneau, à cause de son doux parfum, et les vierges sont sur le mont Sion. Et l'Évangile s'en va vers toutes les nations, parentés et langues. La vie et l'immortalité viennent à la lumière par l'Évangile, qui est la puissance de Dieu, et le mystère de la communion est connu, qui est dans la puissance. Et faute de la puissance, le christianisme, ayant l'évangile où est la communion, a été mis en tas, et les païens sont demeurés dans l'ignorance. 1. Et maintenant, vous qui connaissez la puissance de Dieu, vous connaissez l'Évangile, et vous qui êtes dans la puissance de Dieu, vous êtes dans le mystère de la communion. Ainsi, remarquez, la communion est un mystère, et le mystère de la communion est éternel. Donc, si quelqu'un manque de la puissance de Dieu, il manque le mystère, dans lequel est la communion, quand bien même il aurait toutes les Écritures, d'eux. Et maintenant, amis, si quelqu'un est mu par le Seigneur Dieu, par sa puissance, obéissez-y grec, et attendez dans la vie et dans la puissance, et elle vous conduira à la gloire de Dieu, dans sa sagesse sans en abuser, afin que, quoi que vous fassiez, vous le fassiez pour sa gloire, répondant au juste principe de Dieu en chacun. 3. Si quelqu'un est poussé à aller aux maisons à clocher, ou au marché, ou à reprendre le péché à la porte, ou à exhorter grand ou petit, ou à les reprendre, ne raisonnez pas avec la chair et le sang, et n'éteignez pas l'esprit. Et lorsque vous avez fait cela, vivez dans le même esprit, alors vous aurez paix, repos et communion avec Dieu, et les uns avec les autres. Car l'unité est dans l'esprit, et c'est le lien de la paix. 4. Et vous tous, amis, dans vos réunions, n'éteignez pas l'esprit. Et prenez garde, et ne vous jugez pas les uns les autres dans les réunions, mais ayez patience jusqu'à la fin de la réunion. Ainsi, si quelqu'un a quelque chose sur lui à dire à un autre, qu'il le lui dise après la réunion, cela couvrira la faiblesse les uns des autres, et ne nuira pas aux autres. 5. Et vous tous, amis, partout, attendez de sentir en vous la puissance de Dieu dans vos réunions. Et gardez-vous de dormir, et sentez la puissance de Dieu les uns dans les autres, afin que vous soyez tous dans le mystère de la communion. Car malheur à ceux qui sont à l'aise en Sion, je vous avertis et vous enjoins tous, en la présence du Dieu vivant, que nul ne fasse sa demeure sur la terre ni n'y bâtisse des tabernacles, de peur que vous ne deveniez des vagabonds loin du Seigneur. Mais que chacun demeure dans sa demeure en Dieu, et ici il n'y a point de vagabond, mais là chacun connaîtra un droit d'héritage, une demeure et un héritage. Et je vous avertis et vous enjoins de la part du Seigneur de ne faire d'aucun des joyaux du monde votre Dieu, mais vivez tous dans la puissance du Seigneur Dieu, en laquelle vous serez portés au-dessus de l'esprit du monde. 6. Et vous tous, amis, partout, demeurez dans l'amour et la crainte du Seigneur Dieu, et en paix les uns avec les autres, et dans la puissance et la vie du Seigneur Dieu, gardez vos réunions, et vivez dans le mystère de la communion de l'Évangile, qui est éternel. George Fox, que ceci soit lu dans toutes les réunions. No. XXV. Pendant plusieurs années précédant cette période, les premiers Quakers avaient publié et imprimé de nombreuses tristes relations des persécutions et souffrances de leurs membres en divers endroits du pays, à cause de leurs témoignages religieux, voir le catalogue de Whiting à l'article Sufferings. Des adresses d'avertissement avaient aussi été écrites par eux. Burroughs et d'autres, au protecteur Oliver Cromwell. Pourtant, il semble qu'elles furent généralement sans effet, car il mourut, laissant le cas de ses innocents souffrances en réparation. De nouveaux efforts des amis pour obtenir secours furent entrepris à cette époque, par des démarches auprès du nouveau protecteur Richard Cromwell, ainsi qu'auprès du Parlement. Il apparaît que le sixième jour de ce mois appelé avril, une adresse fut présentée au nom des amis au président de la Chambre des communes, intitulée « Au Parlement du Commonwealth d'Angleterre, étant une déclaration des noms, lieu et souffrance de ceux qui sont maintenant en prison pour avoir dit la vérité en divers endroits, pour n'avoir pas payé les dîmes, pour s'être réunis dans la crainte de Dieu, pour n'avoir pas juré, pour avoir gardé leur chapeau, pour avoir été tenus pour vagabonds, pour avoir visité des amis, et pour des choses. En outre, emprisonnés et persécutés jusqu'à la mort, 21. Aussi un bref récit de leurs souffrances durant les 6 dernières années environ, d'environ 1960 personnes déjà rapportées, n'étant qu'une partie de beaucoup d'autres, dont les noms et les souffrances ne sont pas encore rapportés. Il est désiré que tout cela soit lu et considéré par ce Parlement, afin que justice soit faite. Suit alors une liste de cas de souffrance classés par comté et s'étendant sur de nombreuses pages. Cette déclaration semble être restée quelque temps sans suite à la Chambre. Enfin, les amis s'avancèrent une fois encore, avec l'adresse suivante à la Chambre des communes, appel propre pourrait-on penser à émouvoir les cœurs les plus durs. Cette adresse est imprimée en entier dans les Sufferings de Bess. C'est véritablement un document remarquable, et il mérite bien, pense l'éditeur, une place dans ses annales historiques. Un nombre considérable d'amis, probablement tous ceux dont les noms sont souscrits au document, se tinrent aux abords de la Chambre à cette occasion, tirés des Sufferings de Bess, une folle. Préface, un papier imprimé fut présenté au Parlement en 1659 et souscrit par 164 de ce peuple, dans lequel ils offrent leur propre corps, personne pour personne, pour rester en prison à la place de certains de leurs frères alors détenus, et qui pouvaient être en danger de mort par l'extrême durée de leur détention, papier qui était comme suit, ami. Vous qui êtes appelés un Parlement de ces nations, nous par amour pour nos frères qui gisent dans les prisons, les maisons de correction et les cachots, et dont beaucoup sont entravés de chaînes et de fer, et ont été cruellement battus par de cruels geôliers. Et beaucoup ont été persécutés jusqu'à la mort et sont morts en prison, et beaucoup sont malades et faibles en prison, couchés sur la paille. Ainsi, par amour pour nos frères, nous vous offrons nos corps et nos personnes, afin que vous nous mettiez comme des agneaux dans les mêmes cachots et maisons de correction. Car nous sommes disposés à donner nos vies pour nos frères, et à prendre sur nous leurs souffrances que vous leur infligeriez. Car si nos frères souffrent, nous ne pouvons que le ressentir, et Christ a dit, « C'est lui qui souffre et n'a pas été visité ». Tel est notre amour envers Dieu et Christ, et envers nos frères, que nous leur devons, ainsi qu'à nos ennemis, nous, qui aimons toutes vos âmes et votre bien éternel. Et si vous voulez recevoir nos corps, que nous vous présentons librement pour nos amis qui sont maintenant en prison, pour avoir dit la vérité en divers lieux, pour n'avoir pas payé les dîmes, pour s'être réunis dans la crainte de Dieu, pour n'avoir pas juré, pour avoir gardé leur chapeau, pour avoir été tenus pour vagabonds, pour avoir visité des amis, et pour des choses de même nature, selon un papier intitulé « À déclaration tout de Parliam », remis le 6 jour du deuxième mois, appelé avril 1659, au président. Nous dont les noms sont souscrits au présent étant en nombre suffisant pour répondre des souffrants présents, attendons dans Westminster Hall une réponse de votre part, à nous, à propos de notre offre, et pour manifester notre amour envers nos amis, et arrêter la colère et le jugement qui viendraient sur nos ennemis. Henry Abbott, Alexander Allen, James Allen, John Allington, John Anderson, William Hotchpoo, Henry R. Humphrey Bash, John Badley, Daniel Baker, John Barbet, John Burnard, Richard Bax, John Beckett, James B. Osuelike, C.H.O., William Bett, George Buley, Nicho Laban, John Blackfan, Edward Blanc, Thomas Bla, Edward Billing, John Bolton, Thomas Brabor, Thames Bradley, Nignon Broquet, Edward Brooke, William Brown, Thomas Burcher, Richard Budd, Joseph Bushell, Jacob Carr, Manasseh Casqueté. Jamin Foley, Roger Guenne, Samuel Gerard, William Garrett, John Gayon, William Jeering, Edward Gill, Henry Godman, Peter Gass, Richard Greenway, James Grignier, John Ackleton, Richard Acker, William Hampshire, Edward Harrison, William Rowe, Cuthbert Arle, Robert Asle, Richard Reinmanche, John Holly, Justinian Holliman, John Hope, William Ronell, Stephen Hubbard, Robert Ingram, Ralph Jones, William Johnson, Joseph Jaune, Rhys Jaune, Richard Johnson, Thomas Kent, Humphrey Kirby, George Lamb, Joseph Lang. Du Mercurius Politicus, journal d'information de l'époque, British Museum, est donnée la notice publique suivante de cet événement, 1659, vendredi 15 avril. Ce jour-là, et le lendemain, un grand nombre d'une sorte de gens appelés Quakers montèrent à Londres depuis diverses régions et s'assemblèrent dans Westminster Hall avec l'intention de présenter quelque chose à la Chambre concernant les hommes de leur voix, samedi 16 avril. Un papier portant à l'extérieur ces mots, à savoir, pour le président des communes assemblées en Parlement, ceci est pour lui afin qu'il le lise à la Chambre des communes, fut lu ce jour. Et à sa lecture, le dit papier, entre autres choses, renvoyait à un autre papier intitulé « À déclaration tout de Parliam », remis le 6 jour du deuxième mois appelé avril, 1659, au président alors en charge de la Chambre. Les dits papiers furent présentés par certaines personnes communément appelées Quakers. On joint ci après un bref compte-rendu de ce qui se passa à la Chambre en cette occasion, établi d'après le journal de Burton et les journaux de la Chambre. L'un des membres ouvrit l'affaire par les remarques suivantes, « Cole, Grosvenor, j'ai remarqué un grand nombre de personnes appelées Quakers dans la salle hier et aujourd'hui. Je souhaiterais que vous preniez quelques mesures au sujet de la pétition qui est depuis longtemps devant vous et qu'il soit dispersé. » Un autre membre proposa qu'on les fouette pour les renvoyer chez eux comme vagabonds. La pétition fut finalement lue. Plusieurs membres firent alors diverses remarques. Plusieurs sont contre eux, certains semblent dans leur faveur, ou en faveur de la libération de leurs frères emprisonnés, d'autres voulaient renvoyer leurs griefs à un comité, un autre encore, que les membres des comtés renvoient leur cause au juge de paix afin qu'ils s'informent de leurs griefs. Enfin, la Chambre résolut que la réponse à donner aux personnes qui ont présenté ce papier est que cette Chambre a lu leur papier et le papier auquel ils renvoient, et déclare ne pas apprécier le scandale ainsi jeté sur la magistrature et le ministère, et ordonne donc que les autres personnes concernées se rendent sans délai dans leurs demeures respectives, s'y appliquent à leurs occupations, et se soumettent aux lois de la nation et à la magistrature sous laquelle ils vivent. Il fut proposé que deux ou trois d'entre eux soient appelés à entrer. D'après les journaux de la Chambre, 16 avril, il apparaît que Thomas Moore, John Crook et Edward Billing furent amenés à la barre, le sergent leur ayant ôté leur chapeau, et la réponse susdite leur ayant été déclarée par le président. Les lettres suivantes font sans doute allusion à ce comité. Bien que l'appel émouvant ci-dessus ne semble avoir produit alors que peu ou pas d'effet apparent à la Chambre, nous pouvons remarquer, d'après les journaux des communes, que le mois suivant un comité fut nommé pour examiner l'emprisonnement de telles personnes qui demeurent détenues pour cause de conscience, et comment et de quelle manière elles sont et demeurent détenues, ainsi que l'ensemble de la cause, et comment elles peuvent être libérées, et en faire rapport au Parlement. Journaux, au 10 mai 1659. Le comte de Pembroke et Vane, non mentionnés dans ses lettres, étaient membres de ce comité, Thomas Rawlinson à Margaret Fell. Londres, le 11 du troisième mois, 5e mois, 1659. Cher cœur, mon cher amour dans le Seigneur Jésus te salue tendrement, ainsi que tous les agneaux et les petits-enfants du Christ qui sont avec toi. Je crois que tu as entendu quel bouleversement et changement il y a eu ici à Londres. Le Parlement a recommencé à siéger le dernier septième jour, et ils ont siégé le premier jour. Astérisque, on s'attend à ce qu'il en sorte quelque chose. Les amis ont remis aujourd'hui à la Chambre le mémoire des souffrances, et il a été renvoyé à un comité. L'armée prétend chasser de leur place et charge tous les hommes méchants. Si elle fait ce qu'elle dit, ce sera plus que ce qu'on en attend. Ils ont fouillé beaucoup de maisons le dernier premier jour à la recherche de récusants et de papistes, et la nuit, ils ont fait quelques prisonniers. Ton cher frère dans la vérité de Dieu, Thomas Rawlinson astérisque, voici l'entrée correspondante pour ce jour dans le journal de la Chambre des communes. Jour du Seigneur, 8 mai 1659. La Chambre s'est réunie ce matin à 8 heures, et l'a passée en prière et à entendre la parole, la Bible étant lue, le Dr. Owen priant et prêchant devant eux. C'était un parlement puritain. D'après l'original, Robert Bambrick à Margaret Fell, Londres, le 21 du 4e mois, 6e mois 1659, les souffrances des amis ont été examinées hier à Westminster, et l'on a déclaré des choses graves contre les châtiments qui ont pénétré le cœur de certains membres du comité. Nous leur avons fait secouer leurs plumes et les avons attristés. Ils ont dit qu'ils feraient monter quelques prêtres à Londres et qu'ils les examineraient au sujet de ces choses. Robert Bambrick, d'après l'original, les premiers Quakers avaient, à maintes reprises, averti le Parlement et Oliver Cromwell de la persécution continue des amis à travers toute l'Angleterre. Francis Haughill, étant à Londres, se rendit à la cour pour remettre à Oliver Cromwell, alors gouvernant de l'Angleterre, un avertissement très solennel de la part du Seigneur, avec beaucoup de paroles directement de Dieu. Cette lettre rend aussi témoignage à la vie en Christ dont Francis Haughill jouissait, car la longue déclaration du Seigneur par la main de Haughill le manifeste comme un vrai prophète de Dieu. Haughill réitéra sa prophétie à Cromwell par la lettre suivante : « Ami, j'ai été mû par le Seigneur à venir vers toi, pour te déclarer la parole du Seigneur dans l'amour du Seigneur. Et en te parlant, il m'a été commandé de ne rien te demander, mais de déclarer ce que le Seigneur m'avait révélé à ton sujet. Lorsque j'eus délivré ce qui m'avait été commandé, tu le mis en question, demandant si c'était la parole du Seigneur ou non, et par ton raisonnement tu cherchas à l'écarter. Nous avons attendu quelques jours depuis, mais ne pouvons te parler. C'est pourquoi j'ai été poussé à t'écrire, afin de décharger ma conscience et de te laisser. Écoute donc la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, je t'ai choisi entre toutes les nations, lorsque tu étais petite à tes propres yeux, et j'ai abattu devant toi les montagnes et les puissances de la terre qui avaient établi la méchanceté par une loi, et je les ai retranchées, j'ai brisé les jougs et les liens de l'oppresseur, et je les ai fait plier devant toi, je les ai rendus comme une plaine devant toi, afin que tu les franchisses et que tu foulasses leurs coups. Mais ainsi dit le Seigneur, maintenant ton cœur n'est pas droit devant moi, tu prends conseil, mais non de moi, tu établis la paix, mais non par moi, tu fais des lois, mais non par moi, et mon nom n'est ni craint, ni recherché, mais tu établis ta propre sagesse. Quoi, dit le Seigneur, ai-je renversé tous les oppresseurs et brisé leurs lois, et maintenant tu t'emploies à les rétablir et à rebâtir ce que j'ai détruit? C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, me limiteras-tu et me fixeras-tu des bornes, quant au moment, au lieu, à la manière et à l'instrument par lesquels je me déclarerai et publierai mon nom. Alors je romprai ta corde, j'arracherai ton pieu, et je m'exalterai dans ton renversement. C'est pourquoi telle est la parole du Seigneur pour toi, que tu écoutes ou que tu t'en abstiennes. Si tu n'ôtes pas toutes ces lois faites au sujet de la religion, par lesquelles le peuple qui m'est cher est opprimé, tu ne seras pas affermi, mais comme tu as foulé mes ennemis par ma puissance, ainsi seras-tu foulé par ma puissance, et tu sauras que je suis le Seigneur, car mon évangile ne sera pas établi par ton épée ni par ta loi, mais par ma force, par ma puissance et par mon esprit. À toi, ceci est la parole du Seigneur, ne retiens pas l'Esprit éternel, par lequel je publierai mon nom, quand, où et comme je voudrai, car si tu le fais, tu seras comme la poussière devant le vent, la bouche du Seigneur l'a dit, et il accomplira sa promesse. Car voici ce que j'attends de tes mains, dit le Seigneur, que tu délies les lourds fardeaux, et que tu laisses aller libres les opprimés. Ne tient-on pas beaucoup de personnes enfermées en prison, et certaines mises au pilori, certaines lapidées, certaines traitées honteusement? Et certains sont jugés blasphémateurs par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et par ces lois faites par la volonté de l'homme, et qui ne tiennent pas dans la volonté de Dieu. Et certains souffrent maintenant parce qu'ils ne peuvent maintenir les figures, et insigner que le Christ soit venu en chair, et certains ont été enfermés en prison parce qu'ils ne pouvaient prêter serment, et parce qu'ils demeurent dans la doctrine du Christ, et certains, pour avoir parlé ouvertement contre le péché sur les marchés, ont souffert comme des malfaiteurs. Et maintenant, si tu les laisses souffrir de cette manière par ces lois, Et si tu estimes cela juste, je te visiterai à cause de ces choses, dit le Seigneur, je briserai d'une autre manière le joug de dessus leurs épaules, et tu sauras que je suis le Seigneur. Mu par le Seigneur à déclarer et à écrire ceci, par un serviteur de la vérité pour l'amour de Jésus, et un ami de ton âme, appelé Francis Raugle, comment cela fut reçu, je ne le sais pas, mais il m'est donné d'entendre que quelques serviteurs de Cromwell, Theophilus Green et Mary, qui devint ensuite l'épouse de Henry Stout, furent tellement touchés par le discours de Francis qu'ensuite ils devinrent membres de la Société des Amis. Mais parce que Cromwell ignora cet avertissement, ainsi que bien d'autres messages d'avertissement que des Quakers lui apportèrent de la part de Dieu, il mourut peu après alors qu'il était en charge. Après le retour du roi Charles Yi sur le trône, la réputation de Cromwell subit l'indignité que son cadavre fut déterré, pendu au gibet et décapité, sa tête étant exposée au bout d'une pique à Westminster Hall. Il fut averti maintes et maintes fois par un dieu patient, dont la colère est lente à s'enflammer. No. XXV Alexandre Pock à Margaret Fell, Londres, le 22 du 4e mois, 6e mois 1659. Toujours chère et véritablement bien-aimée sœur, bien que depuis quelque temps je sois resté silencieux, mon amour sincère et véritable est pourtant pour toi, et mon cœur est lié au tien par un lien indissoluble. Mon amour s'étend vers vous tous, et quoique, quant au corps, je sois absent de vous, pourtant dans le Seigneur je suis présent avec vous. Oh, que c'est une chose bonne et précieuse d'être gardé dans l'amour de la vérité, que le Seigneur fortifie et préserve tous les siens, fidèles jusqu'à la fin. Dans cette ville, en général, les choses vont bien, et la vérité a une bonne domination, et vraiment je puis dire ceci. Jamais depuis que je connais la vérité, le service n'a été plus grand. Une puissante soif, un désir et une ouverture se trouvent en beaucoup de personnes en la plupart des lieux, surtout depuis le changement de gouvernement, et l'œuvre est très grande, et les ouvriers qui sont vrais et fidèles sont peu nombreux, comme tu le sais bien. Je vois ceci, plus nous travaillons, plus nous avons de travail, mais le Seigneur est notre force, et je suis disposé à dépenser et à être dépensé pour l'amour du Seigneur. Le comité du Parlement est pour la plupart très modéré, et examine les choses très à fond, et qu'il fasse quelque chose ou rien quant à l'élargissement des amis, il est utile que la méchanceté des hommes avides et cupides soit mise en lumière. On ne peut attendre beaucoup d'hommes de cette nature, car bien qu'il y ait un changement de nom, la vieille nature demeure encore, il y a assez de terre pour faire une autre montagne. Mais quelle qu'en soit la conséquence, je sais et je sens ceci, la vérité y gagne grandement, et une porte ouverte s'ouvre davantage encore pour répandre la vérité au loin. Que le Seigneur fasse prospérer son œuvre et la conduise à sa propre louange et gloire. George Fox et Edward Burroughs sont venus dans cette ville le dernier 5e jour, et ils ont eu beaucoup de services dans le Kent et d'autres régions. Quant au service d'Edward Burroughs à Dunkerque, je le laisse à sa propre déclaration par ses lettres à Candale. George Fox va bien, comme Isabelle Rousse peut te l'apprendre, elle qui est partie de cette ville la semaine dernière. Il est probable qu'elle soit avec toi avant que ceci te parvienne. Mon amour va vers elle, vers Bridget, Sarah, toutes ces tant filles de Margaret Fell et les autres. Mon amour vous atteint tous et les amis de par chez vous. Dans la cherté de mon amour pour toi, je demeure et reste ton cher frère dans le service du Seigneur. Alexandre Pank, George Whitehead et Edward Burroughs te rappellent leur affection pour toi et ta famille. Il y a ici beaucoup d'amis venus de la campagne en cette ville, comme Gervas Benson, Anthony Pearson, Thomas Aldam et beaucoup d'autres. Ils remettront demain au Parlement, s'ils le peuvent, la souscription contre les dîmes, d'après l'original No. XXX Richard Robeson à Margaret Fell, Londres, le 21 du 9e mois, 11e mois 1659, chère sœur. Dans l'amour sincère de la vérité, je te salue, et le cher amour de la source de ma vie s'écoule librement vers tout le troupeau du Seigneur qui est avec toi, étant étroitement uni à eux tous dans l'esprit d'amour et de vie, dont notre Père Céleste nous a tous rendus participants, afin que nous puissions sentir, connaître et nous rafraîchir les uns les autres, pour que notre joie soit parfaite. L'œuvre ici augmente chaque jour, et les réunions, désormais, sont dans toute la ville assez paisibles, sans être troublées. Quant aux officiers de l'armée ici, ils produisent peu de bons qui parviennent à quelque perfection, ils parlent et débattent des choses, mais c'est à peu près tout ce qu'ils font. Quant aux dîmes, ils en débattent, parlant parfois de les vendre, et ils sont en grande consultation sur la manière d'assurer l'entretien d'un ministère. Parfois ils parlent de réduire les 9000 paroisses d'Angleterre à 3000, et d'avoir ainsi certains ministres déterminés, qui seraient les ministres de l'État, et que l'État paierait, et ils passent leur temps à parler de telles choses. Mais certains de leurs chefs sont trompeurs dans l'orgueil et l'ambition, et se cherchent eux-mêmes, et non le bien d'autrui, quoique certains des subalternes aient des intentions honnêtes, s'ils pouvaient les mener à effet. J'ai été souvent avec quelques-uns d'entre eux, comme le colonel Rich, le colonel Ashfield, Henry Vann et d'autres, Ils sont assez ouverts pour entendre un conseil et professent se tenir pour les bonnes choses. Le colonel Rich a été très utile aux amis dans ce dernier comité, et il parle hardiment, parmi eux pour la vérité et la justice, mais lui, Evan, et les autres de ceux qui voudraient faire quelque chose, sont rejetés, et les principaux meneurs n'osent rien mettre aux voix, parce que la plupart des officiers subalternes voudraient la liberté et des choses honnêtes. Le colonel Rich déclara parmi eux que beaucoup de nos amis avaient été remis en prison depuis la dissolution du Parlement, et que le Parlement avait davantage fait pour la liberté des consciences scrupuleuses que ne l'avait fait, et il leur proposa de nommer un comité pour le même but, afin de libérer ceux qui souffraient pour motif de conscience, et beaucoup dirent que c'était bon, mais ils remirent la chose, et ne voulurent pas le faire. « Je désire avoir de tes nouvelles, lorsque tu trouveras liberté dans le Seigneur. Ton cher frère, Richard Robeson, d'après la collection de manuscrits de W, canton O, XXX Henry Fell à Margaret Fell, Henry n'avait aucun lien de parenté avec Margaret Londres, le 7 du 12e mois 1659, 2e mois 1660 M. F. Ma très chère bien-aimée dans le Seigneur, mon âme te salue et t'honore. George Fox et les amis ici se portent généralement bien, mais les soldats du général Monk asterisque commencent à se montrer grossiers au sujet des réunions des amis. John Scaff est venu en ville et s'est rendu hier à la réunion dans la cour du palais, à Westminster. Mais peu après qu'il eut commencé à parler, ils se mirent à traîner violemment les amis hors de la maison, et à les battre très sévèrement, et n'autorisèrent aucun d'eux à rester dans la maison. Oui, ils battirent et maltraitèrent les amis de façon excessive dans les rues. J'y arrivai lorsqu'ils avaient traîné dehors presque tous les amis, puis les dispersèrent, et ils me tirèrent dehors et me battirent beaucoup, me faisant tomber dans la rue et déchirant mon manteau de toutes parts. Edward Billing et sa femme furent très maltraités, lui surtout. J'entends dire qu'il alla peu après écrire au Parlement et instruisit certains d'entre eux de la manière dont on les avait traités et qu'il s'efforcerait de le porter devant le général Monk et les autres. Comme les choses se présentent maintenant, il y a de grandes divisions et de grands mécontentements parmi le peuple, mais pour ceux qui craignent le Seigneur et l'attendent, toutes choses tourneront à leur bien. Ton frère, Henry Fell, d'après la collection de manuscrits de W. Caton asterisque le général Monk, en fait Monk, avait été, en Écosse, un grand soutien d'Olivier Cromwell dans sa guerre civile visant à renverser la monarchie. D'après le journal de George Fox, nous apprenons ceci au sujet de Monk. Je vis que le général Monk était un homme qui s'était incliné devant Olive Protecteur, et qu'il avait un voile, il ne faisait que jouer un rôle, et que lorsque ce voile serait ôté lorsqu'il cesserait de jouer, il redeviendrait l'homme qu'il avait été avant Cromwell. Ceux qui m'ont banni Fox avaient été bannis d'Écosse seraient eux-mêmes bannis peu d'années après, car lorsqu'ils eurent le pouvoir, ils ne firent pas le bien, ni ne permirent aux autres de faire le bien non plus. Monk avait servi Charlie. Lorsque Cromwell, par révolution, remplaça le roi, Monk devint l'assistant de Cromwell et commandant en chef en Écosse, où il avait sous ses ordres de nombreux Quakers comme soldats. Fox écrivit une longue lettre à lui et à l'armée en Écosse. Monk reçut, le 24 novembre 1659, la commission de commandant en chef des forces parlementaires. Il entra dans la capitale le 3 février 1660. Dans tout cela, son dessein ultime demeura mystérieux. Tantôt il encourageait secrètement les revendications de la cité de Londres, royaliste, tantôt il pressait de se soumettre au parlement existant, puis encore il refusa de prêter un serment abjurant la maison Stuart, et de plus, il laissa entendre au Rump du long Parlement l'urgente nécessité d'une dissolution. Il força la dissolution du Parlement républicain, tout en brisant en même temps, comme question de discipline, les groupes politiques qui s'étaient formés dans ses propres régiments. Il était désormais maître de la situation. Bien qu'il protestât de son attachement aux principes républicains, il était de notoriété publique que le nouveau Parlement aurait une forte coloration royaliste. Monk lui-même, désormais en communication avec Charlie, accepta la déclaration de Breda, largement fondée sur les recommandations de Monk. Le nouveau Parlement se réunit le 25 avril 1660 et le 1er mai vota le rétablissement de la monarchie. Soldat qu'il fut, il joua, dans une situation mouvante et incertaine, le difficile jeu de la politique avec une habileté incomparable, qu'il fut Victor Sin Sanguin, CAD. Sansan, comme l'énonçait le préambule de ses lettres de noblesse, fut généralement applaudi comme le plus grand de ses services, surtout après la violence des guerres civiles. Charlie récompensa Monk comme il convenait pour ses services en le rétablissant sur son trône. Il fut fait chevalier, reçu dans l'ordre de la Jarretière, et nommé grand écuyer, Master of the Horse de la Maison du Roi. Charles l'éleva aussi à la pairie avec les titres de Baron Monk, Comte de Torrington et Duc d'Albemarle, et il reçut une pension de 700 livres par an. Monk fit exactement ce que George Fox avait prévu. Il se rallia de nouveau à la cause royaliste des Stuarts, son second changement de loyauté, montrant combien il était un acteur habile. No XXI, la lettre suivante est transcrite d'un ancien manuscrit, probablement une copie. Elle est sans date et porte en annotation « Lettre d'un B à W. M. » Le contenu de la lettre est assez circonstancié et présente toutes les apparences de « L'authenticité ». Le journal de Samuel Pepys semble fixer la date de la lettre, et peut-être même le nom de son auteur, comme étant Edward Billing. 7 février 1660. Le 12 mois 1659 au Royal Westminster, étant dans la cour du palais, je vis les soldats de Monk maltraiter Billing et tous les Quakers qui se trouvaient là, dans un lieu de réunion, et en vérité les soldats les traitèrent très durement et ils avaient tort. Journal de S. Pepys Vol, IP 13, 1B à W. M. Probablement Edward Billing à William Meade, qui épousera plus tard Sarah Fell, fille de Margaret Fell, cher W. M. Oh mon cher cœur, que soit jamais béni son nom éternel, lui qui nous a appelés et nous a jugés dignes de rendre témoignage, ou en quelque mesure de souffrir pour l'amour de son nom, lui qui est, qui était et qui vient, et qui est déjà venu, et qui est au-dessus de tout. Depuis la venue du général Monk à Londres avec son armée, nous avons été très maltraités dans nos réunions. Ainsi, dans la cour du palais, on nous a tirés par les cheveux, frappés du pied, et jetés à terre, hommes et femmes, d'une manière qui ne peut ici se décrire. Nombreux furent les coups, les frappes et les ruades que ma femme et moi avons reçues, et cela fut fait par les fantassins du général Monk, qui entrèrent dans la réunion avec l'épée et le pistolet, étant, disait-il, liés par serment de ne laisser en Angleterre aucun sectaire, disant qu'ils avaient ordre de leur seigneur Monk de nous tirer hors de notre réunion, ce qu'ils firent avec une cruauté inexprimable. La réunion dans la cour du palais, je suppose que tu la connais. Après nous avoir battus dans la maison avec leurs épées au fourreau, des fouets et autres choses semblables, ils nous traînèrent dehors et nous ruèrent dans le caniveau devant la porte, où je reçus bien des coups, étant en particulier frappé et rué à travers toute la cour du palais, jusqu'à la porte du Roll. Étant parvenu dans le Roll, après avoir un peu repris mes esprits, je fus mû par le Seigneur à écrire un petit billet au speak de la chambre, le Parlement siégeant alors. Dès que je fus dans le vestibule, j'envoyai chercher dans la chambre le sergent Shiddleton, qui vint à moi. Je lui remis le billet, l'enjoignant de le donner au speak, ce qu'il fit, et il fut aussitôt lu publiquement à la chambre, lorsqu'un ennemi se leva et dit que la multitude était apaisée, etc. Je traversai la foule pour retourner vers la maison de réunion, et là ils se jetèrent de nouveau sur moi une seconde fois, comme auparavant, et en regagnant mon logement, ils ne m'épargnèrent pas, mais se ruèrent sur moi, criant « Tuez-le », disant que j'étais le meneur et le capitaine des Vauriens. Nous rencontrâmes ensuite le colonel Rich, qui fut très touché de voir et d'entendre le récit de ce qu'on nous avait fait. Avec lui je repassai par la cour du palais, les soldats et la multitude battant justement alors une femme de la maison sur le seuil, et pillant la maison, nonobstant qu'il eût été dit que le tumulte était apaisé. Enfin je passai à Whitehall, où se trouvait le général Monk, avec lequel j'eus audience immédiatement. En quelques mots, je lui exposai toute l'affaire, et lui dis que les soldats prétendaient avoir reçu son ordre. Il pouvait dire que non. Je répondis que, depuis que lui et son armée étaient venus en ville, nous ne pouvions parcourir les rues sans être très maltraités, n'ayant pas été aussi maltraités depuis tant d'années, non, dis-je, jamais par des soldats. Je ne te fais pas ce récit détaillé de mes mauvais traitements comme s'ils avaient été pires que ceux des autres, car plusieurs amis furent aussi maltraités que moi. Ainsi, en Nouvelle-Angleterre, des amis sont exécutés, le troisième sur l'échelle rendit un précieux témoignage au Dieu vivant. Le Parlement a déclaré que l'entretien des prêtres se ferait par voie de dîme, et qu'ils gouverneraient selon la loi. Jusqu'ici, ils prétendaient, au moins, régler la loi, et que le prêtre aurait ses dîmes jusqu'à ce qu'on trouvât un autre entretien. Mais ceux de la Chambre qui avaient quelque raisonnabilité, avant leur interruption, sont maintenant devenus aussi mauvais que des hommes puissent l'être, sauf N. Rich, Henry Smith, F. Pyrne et Pembroke, qui fut la seule personne à plaider pour la liberté de conscience, n'étant appuyée par aucun homme N. Rich n'y était pas, n'étant pas là, et terminant son discours par ces mots, « Monsieur le Speaker, je suppose que ce que je vous ai offert ne sera que comme une coupe d'eau froide. » Le général Monk a fait abattre les portes de Londres, ce qui vraisemblablement dépassait son jugement, et à quoi dit-on il fut pour ainsi dire amené par ruse, car ayant dit plaisamment au conseil une nuit, dit-on, que la cité ne serait pas conforme tant qu'on n'aurait pas abattu les portes ou quelque chose d'approchant. Aslrig alla à la chambre le lendemain et informa la chambre que c'était le désir du général Monk, le conseil lui ayant envoyé la nuit précédente un ordre de le faire, mais, sur le rapport d'Anso Aslrig, cela fut confirmé. Après tout cela, il sort de la cité en marche vers Whitehall et ramène son armée avec lui. Le lendemain, il réunit un conseil distinct de ses propres officiers, et il rentre dans la cité en marche avec son armée, sans le consentement du Parlement. Mais ils furent forcés de se tenir tranquilles et contents de pouvoir l'être. La cité le reçut, lui et les siens, avec de grandes acclamations, cloches sonnant et feux de joie toute la nuit, chose semblable, je crois, qu'on a rarement vue. Mais malgré tout cela, jusqu'à ce jour, ni la cité ni le Parlement ne sont certains de lui. Il n'est plus maintenant qu'un des commissaires, sa commission de général ayant expiré le 11 de ce mois. Pourtant, il a fait venir, par son propre ordre, la brigade irlandaise pour marcher vers lui, et il demeure encore dans la cité. Les brefs et les qualifications sont prêts pour compléter la chambre, et l'on dit qu'ils doivent partir demain, mais pour le moment, il semble plutôt que les membres exclus rentreront, tout est pour eux ou pour un Parlement libre. Fairfax et les autres grands de York se sont déclarés pour le Parlement libre ou pour les membres exclus, sans l'un ou l'autre, ils déclarent ne payer aucun impôt. Norfolk et Suffolk sont associés à ceux du Yorkshire, et le pays de Galles est dans une posture semblable, leurs régiments sont formés ou en formation dans le Yorkshire. Rapide sera la main de Dieu sur ce Parlement, comme elle le fut sur ces hypocrites impurs de Wallington House, qui firent tout ce qui était en leur pouvoir contre Dieu, et contre tout ce qui pouvait être appelé de Dieu. Lambert n'est pas encore revenu, selon l'ordre du Parlement, mais il a envoyé une lettre au Speak, dont l'objet est, dit-on, de demander leur ordre pour vivre tranquillement chez lui, ou un laissez-passer pour passer au-delà des mers. Ludlow est mis en accusation à la Chambre, mais jusqu'ici rien n'a été fait contre lui, et il siège à la Chambre. L'heure de la persécution sera encore aiguë et terrible. Selon ta liberté, salue-moi chèrement les amis, et que ceux qui tiennent debout prennent garde de tomber, car je suis convaincu que nous serons de nouveau éprouvés comme par le feu. Henry Vane et Salwy sont exclus de la chambre, et Salwy envoyé à la tour, mais il a obtenu la faveur d'aller dans sa propre maison dans l'Oxfordshire. Vane est assigné à résidence au château de Raby, sa propre demeure, et y est allé une seconde fois, car il était en route, puis revint, à quoi le général Monk trouva à redire, ainsi on l'ordonna de nouveau entre les mains du sergent at arms, qui le conduisit hors de Londres il y a quelques jours. Fleetwood et ses pires des hommes en combinaison avec lui, Sydenham, Disborough, Packer et d'autres, ne sont que renvoyés et pour le moment tolérés, et ainsi en est-il d'Owen. Les amis en général sont précieusement gardés dans la vie, et je puis vraiment dire qu'ils sont rafraîchis en cette heure de persécution. No. XXZ Richard Robuthon à Margaret Fell, Londres, le 20 du premier mois, troisième mois 1660. Chères sœurs, nos réunions, pour l'instant, sont paisibles et tranquilles, quoique nous ayons subi la grossièreté de quelques soldats et des troubles. Je fus poussé à écrire quelque chose à Monk le général à ce sujet, sur quoi il prononça quelques mots comme un ordre aux officiers et aux soldats, ce qui, pour le moment, les a arrêtés dans leur fureur. J'ai l'intention de rester dans la ville environ 2 semaines, puis de passer vers le Suffolk et le Norfolk, et ensuite vers le Yorkshire. Francis Raugill, Samuel Fichet et Joseph Stubb sont dans la ville, ton cher frère. Richard Robuthon, d'après la collection de manuscrits de W. Caton, cet ordre du général Monk est donné dans l'histoire de Bevel, il a été trouvé parmi la collection Swarthmore de manuscrits comme Suisse Saint. James, le 9 mars, j'exige de tous les officiers et soldats qu'ils cessent de troubler les paisibles réunions des Quakers, ceci ne faisant rien de préjudiciable au Parlement ni au Commonwealth d'Angleterre. George Monk, no. XXZ Richard Robuthon à George Fox, Londres, le 29 du troisième mois, cinquième mois 1660. Chers frères. Depuis que je t'ai écrit la semaine dernière, nos réunions ont été paisibles et très nombreuses. George Fox, le plus jeune, sans lien de parenté avec l'aîné, fut amené dans cette ville la semaine dernière, le cinquième jour, et est prisonnier à Lambeth House, ainsi que Robert Grassingham, qui a été amené avec lui. Ils ne sont pas encore assignés à comparaître au tribunal, et demeurent donc emprisonnés. Je leur ai rendu visite 2 fois en prison. J'ai aussi visité certains officiers de l'armée qui s'y trouvent, avec lesquels j'ai eu un bon service, comme le major Bremont, Allen et Courtenay, qui y sont prisonniers. J'ai été avec le colonel Rich, il est en liberté, il est assez humble et sensible, et voit que tout sera séparé en deux, c'est-à-dire ou bien se joindre à la vérité ou bien aux profanes. Il était le dernier premier jour à notre réunion dans le Strand. Plusieurs chez qui un principe honnête s'est éveillé commencent à s'incliner vers la vérité, mais la méchanceté dans cette ville est si grande qu'elle dépasse toute expression, et partout dans la nation elle abonde comme un déluge, et les amis, partout, passent au péril de leur vie et au milieu de grandes souffrances. Stephen Crisp a traversé de grandes souffrances à Peterborough, Norwich et en d'autres lieux, et il est maintenant à Colchester. John Moon et William Allan ont été cruellement maltraités à Cambridge, et William Hams est fortement meurtri. Josiah Coal est prisonnier à Leicester, remis aux mains du prévôt, où il est très maltraité. Il repose sur des pierres, et sa nourriture n'est que pain et bière, Il a désiré que tu en sois informé. Alexandre Pock est prisonnier à Nantwich, dans le Cheshire, et est aux mains du prévôt. Il fut pris dans une réunion à Nantwich, mais le prévôt lui est assez affectueux. C'est seulement la puissance du Seigneur Dieu qui nous préserve, ici dans cette ville, de la rage des méchants, qui est très élevée. À notre réunion de ce jour à Westminster, le matin, les gens furent très grossiers et avaient presque dispersé la réunion, mais ensuite quelques soldats vinrent et apaisèrent les gens grossiers, plaçant une garde à la porte. Ainsi la réunion demeura tranquille et se termina tranquillement. Le roi Charles et ses deux frères James et Henry sont entrés aujourd'hui dans cette ville. Charles a un visage assez sobre, mais la grande fierté et la vanité de ceux qui l'ont fait entrer sont inexprimables, et il est en danger d'être amené ou travaillé à ces choses auxquelles, en lui-même, il n'est pas enclin. Le grand excès et l'abomination dont on a usé aujourd'hui dans cette ville sont inexprimables. Je ne sais pas encore quand je quitterai cette ville, car le service est très grand. Richard Hubberthorne, d'après l'original Nono XX Xiv Richard Hubberthorne à George Fox Londres, le 24 du 5e mois 7e mois 1660. Chers frères, quant à ce qui se fait ici, M. F. Margaret Felt a écrit. Nos réunions ici sont très nombreuses et paisibles, et augmentent chaque jour, et il y a grand service. J'ai montré à J. Nelly ta lettre, où tu mentionnes une lettre antérieure au sujet de son voyage à Bishopric, mais il ne l'a pas reçue. Il te rappelle son cher amour, et désire savoir, par le prochain courrier, si quelque chose de cela est sur toi à son sujet. Mais à présent, il y a ici un grand service pour lui, et plusieurs grands personnages désirent l'entendre chez Woodyock. Il y a été certains premiers jours, et il lui est imposé d'y être encore davantage. Nous en avons amené quelques-uns à cette réunion, parce qu'elle était si pleine, et que beaucoup de personnes considérables du dehors s'y rendent. Il y a une réunion chez Elizabeth Trott à Pall Mall, où beaucoup entrent, où Margaret Fell a été deux premiers jours. Richard Hubberthorne, d'après l'original, il ressort du journal de George Fox que Margaret Fell, vers cette époque, se rendit à Londres pour intercéder auprès du roi en faveur de George Fox, qui avait été fait prisonnier dans sa maison et emmené de force au château de Lancaster. Il fut, peu de temps après, libéré par ordre du roi, ayant été autorisé, sur sa seule parole, à voyager jusqu'à Londres pour comparaître devant les juges. Voir le journal de George Fox, 1660. Margaret Fell remit aussi au roi, de ses propres mains, au 5e mois de cette année, une lettre, après qu'il eut publié une proclamation visant à traduire en justice ce qui avait été les instruments de l'exécution de son père. Dans cette lettre, elle lui rappelle comment le Seigneur l'avait ramené dans cette nation sans effusion de sang ni vengeance. Elle souhaitait donc qu'il considère cela et qu'il ne se laisse pas entraîner par ce qui voudrait l'exciter à la vengeance, ce qui est ni selon la volonté de Dieu, ni bon pour le roi, dont la meilleure voie était de montrer miséricorde et pardon, et de remettre sa cour à Dieu, et d'être pur du sang de tous les hommes, et de laisser chacun jouir de la liberté de sa conscience, pour le culte sous lequel il ose confier son âme. Et elle lui adressa aussi d'autres lettres à cette période, œuvre de Margaret Fell. Elizabeth Trott, ayant reçu la vérité, abandonna sa maison, qui se trouvait vers l'extrémité de Pall Mall, près de la maison de James, pour y tenir une réunion, vie de Gilbert Lattay. Les Quakers croyaient fermement que les prophéties concernant la mort de Cromwell s'étaient accomplies parce qu'ils n'avaient pas prêté attention aux avertissements de Dieu. À présent, le roi était revenu au pouvoir. George Fox écrit hardiment une lettre au roi pour l'exhorter à exercer miséricorde et pardon envers ses ennemis, et pour l'avertir de réprimer la profanation et le relâchement qui s'étaient élevés dans la nation à son retour. Au roi, de la part de George Fox, roi Charles, vous n'êtes pas entré dans cette nation par l'épée, ni par la victoire de la guerre, mais par la puissance du Seigneur. Or, si vous n'y vivez pas, vous ne prospérez pas. Si le Seigneur vous a fait miséricorde et vous a pardonné, et que vous ne faites pas miséricorde et ne pardonnez pas, le Seigneur Dieu n'entendra pas vos prières, ni celles de ceux qui prient pour vous. Si vous n'arrêtez pas la persécution et les persécuteurs, et ne supprimez pas toutes les lois qui maintiennent la persécution en matière de religion, si vous y persistez et soutenez la persécution, cela vous rendra aussi aveugle que ceux qui vous ont précédé, car la persécution a toujours aveuglé ceux qui s'y sont engagés. Un tel Dieu, par sa puissance, renverse, accomplit ses actes vaillants et apporte le salut à ses opprimés. Si vous portez l'épée en vain et laissez l'ivrognerie, les jurons, les spectacles, les jeux de mets et autres abominations et vanités du même genre être encouragés ou rester impunis, comme l'érection de mâts de mets, avec l'image de la couronne au sommet, etc. Les nations se tourneront vite comme Sodome et Gomorre, et seront aussi mauvaises que l'ancien monde, qui attrista le Seigneur jusqu'à ce qu'il les renversât, et ainsi fera-t-il pour vous, si ces choses ne sont pas réprimées. Rarement y eut-il tant de méchanceté en liberté qu'en ce jour, comme s'il n'y avait ni crainte ni puissance de gouvernement, ce qui ne fait pas honneur à un gouvernement, ni n'est une louange pour ceux qui font le bien. Nos prières sont pour ceux qui sont en autorité, afin que sous eux nous puissions vivre une vie pieuse, dans laquelle nous ayons la paix, et que nous ne soyons pas entraînés dans l'impiété par eux. Écoutez et considérez, et faites le bien en votre temps, tant que vous avez le pouvoir, soyez miséricordieux et pardonnez, c'est le moyen de vaincre et d'obtenir le royaume du Christ. George Fox de Robeson à George Fox, Londres, le 31e jour du mois de Fils, 7e mois. Cher frère, toute mon affection est pour toi. Quant à ce livre que tu mentionnes, qui est contre nous et qui était dans la feuille de nouvelles, il a reçu réponse, et la réponse a été imprimée il y a 12 jours. Certaines copies en sont diffusées à Whitehall, d'autres se vendent dans de nombreuses boutiques, et quelques femmes l'écrient dans les rues. Ainsi la vérité l'emporte sur cela, bien que ce soit l'un des pires livres qui ait encore été écrit contre la vérité. Il y a une feuille de questions qui nous est parvenue des papistes, qui maintenant se glissent à nouveau vers le haut, à laquelle il a été répondu. Tout va assez bien ici, et nos réunions augmentent chaque jour en ampleur, et tout est tranquille. Tu écris qu'un certain 7e jour tu n'as reçu aucune lettre, mais à ce moment-là plusieurs lettres t'ont été envoyées, tant de la part de M. F. que de moi, et aussi la semaine dernière nous t'avons écrit, et nous n'avons manqué aucune semaine, mais nous t'avons écrit. Edward Burroughs est à Bristol, il écrit à certains au sujet de ses projets d'aller bientôt en Irlande, il a envoyé deux lettres au roi en privé, mais nous ne les avons pas vues. Richard Hubeson de Robeson à George Fox, Londres, le 6e jour du 6e mois, 8e mois 1660. Cher frère, j'ai reçu tes lettres la semaine dernière, et je ferai bientôt copier ta lettre au roi et au Parlement, ensuite elle pourra être imprimée. Tout ce qui concerne ici la vérité va bien, et nos réunions sont très nombreuses en tout lieu ici, et paisibles. George Whitehead est ici, et te rappelle sa chère affection, Richard Hubeson. Richard Hubeson mourut à Newgate environ 2 ans après la date de cette lettre. Ce qui suit est une copie de l'inscription le concernant dans le registre londonien des inhumations des amis. Richard Hubeson a déposé son corps au temps de son emprisonnement à Newgate, le 17 jour du 6e mois, 1662, et l'enquête du coroner a conclu qu'il était mort naturellement, et il fut enterré dans le cimetière susmentionné, Bunhill Fields. Dans un registre de la réunion de Yealand dans le Lancashire, on trouva un court récit concernant Richard Hubeson, natif de ce village. Il y est décrit comme l'un des premiers messagers qui proclamèrent la vérité dans cette région. Après avoir indiqué qu'il fut emprisonné quelques mois dans la prison de Chesté, le récit poursuit en disant qu'il fut renvoyé hors de cette ville par le maire et les juges, sur mandat, pour être conduit de constable en constable jusqu'à ce qu'il arrivât à Yealand, son lieu de naissance. Le premier constable était Richard Sall asterisque Doul, qui fut convaincu par Richard, il brûla le mandat et le remit en liberté. R. Hubeson fut ensuite emprisonné à Congleton, ainsi qu'à Cambridge et à Norwich, où il demeura plusieurs mois. Venant ensuite à Londres, il eut beaucoup d'exercices avec nombre de grands et avec le roi. Ainsi, après beaucoup de labeur et de peine en Angleterre et au Pays de Galles pendant 9 ans, il fut emprisonné par Richard Brown, grand persécuteur maire de la cité de Londres, dans la prison de Newgate, où il fut entassé durant la chaleur de l'été. Là il acheva son témoignage le scellant de son sang, étant un martyr pour Jésus le 17 jour du 6e mois, 1662. Astérisque Richard Sall était l'ami qui mourut des suites de son emprisonnement torturant dans la prison de Chesté, dans une cellule appelée l'Ételise. Cette cellule se distinguait des autres par ses petites dimensions. Elle n'était pas assez haute pour s'y tenir debout, ni assez large pour s'y coucher. Il fallait s'y accommoder d'une manière malaisée et vivre en diagonale. Le sommeil était un effondrement et l'éveil un accroupissement. NXXXV Elirox à George Fox, Londres, le 11 jour du 6e mois, 8e mois 1660. Cher George Fox, concernant les souffrances, elles ont toutes été envoyées ici sauf l'Écosse depuis longtemps. Environ 18 comtés ont envoyé des copies, qui sont prêtes, certaines en livres et d'autres en feuillets, en bon ordre. La plupart de celles qui sont arrivées viennent des comtés de l'Ouest. Or la principale raison pour laquelle je t'écris est de savoir si elles doivent être imprimées, ou si tu voudrais qu'elles soient transcrites dans un grand livre à conserver. À présent je ne suis pas si occupée que je ne puisse m'appliquer à les écrire, si tu le juges bon, ce que je suis disposée à faire, ou bien penses-tu que Thomas Forster pourrait le faire, lui qui, je crois, le ferait mieux. Pourtant je suis tout à fait disposée, et je puis prendre autant de soin que je le pourrai pour bien les faire, et pour l'ordre des comtés, lesquels seront mis en premier, cela peut être selon tes instructions. Il n'y a que le Lincolnshire, le Derbyshire et le Leicestershire qui est envoyé jusqu'ici parmi les comtés du Nord. Ainsi, si tu le juges nécessaire, on peut leur écrire pour qu'ils les envoient. Toute mon affection est pour toi. Eli Roux pour George Fox à Lancaster. D'après l'original, Eli Roux était employé à Londres comme commis d'enregistrement de la société. Ses récits de souffrance furent consignés dans de grands volumes in-folio, qui sont encore conservés parmi les archives de la société à Londres, et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui en 40 volumes. Ils furent commencés par Eli Roux, dont l'écriture claire et excellente couvre une grande partie du premier de ses volumineux folios. Aux récits de souffrance et de persécution furent ajoutés des comptes rendus de ce qui était considéré comme des jugements sur les persécuteurs, lesquels furent sans doute, en ce temps-là, ordonnés d'être consignés sous le sentiment de la crainte de Dieu et en témoignage de sa puissance souveraine. Puisqu'Eli était le secrétaire officiel de la société, il se trouvait souvent mêlé à de nombreuses démarches auprès du roi et du Parlement, particulièrement lorsqu'il fallait présenter des pièces à l'appui de leurs requêtes ou assurer le suivi juridique de tout soulagement accordé. Pour cette raison, vous verrez dans la suite beaucoup de ses lettres à Margaret Fell et à d'autres. Ci-dessous se trouve une autre lettre très instructive, N194 de George Fox. George Fox à tous les amis, chers amis, vous qui avez trouvé la meilleure part et choisi la meilleure chose, l'unique chose qui demeure à jamais, qui est le fondement de toute vraie réjouissance et de toute joie, en qui vous avez toutes les richesses et la vie, et les bénédictions, et la puissance immortelle, pour être votre couronne et votre protection. Il se peut qu'il y ait un temps de tonte et de coupe, mais la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Ainsi considérez-le comme votre partage, et que la semence, le Christ, soit votre tout, et votre vie, et ne craignez pas de perdre la toison car elle repoussera. Tenez vos réunions au nom de celui qui ne tomba jamais, lesquelles sont au-dessus de toutes les réunions des fils et des filles d'Adam dans la chute. Demeurez dans la communion de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu, qui existait avant que le diable fût, et cette communion est au-dessus de toutes les communions nationales dans la chute d'Adam. Demeurez dans l'adoration du Père en esprit et en vérité, dont le diable est hors, et en cela, vous vivrez dans la vérité et l'esprit en vous-même, et marcherez dans l'unité dans le même, et alors vous êtes au-dessus de tous les cultes de volonté propres dans la chute d'Adam, là où ils sont dans la dispute à leur sujet. Ceux qui sont venus à l'Église en Dieu voient au-dessus de toutes les églises d'Adam dans la chute, chassés de Dieu. Comme les Juifs extérieurs souffrirent par les Égyptiens et Babyloniens extérieurs, qui les persécutaient et tuaient leurs enfants, ainsi les Égyptiens spirituels et Babylone mystérieuse persécutent et voudraient tuer les Juifs en esprit, qui adorent Dieu en esprit, dont la louange vient de Dieu et non des hommes, et ceux-là n'ont besoin de rien des hommes déchus, mais sont persécutés par eux. Mais tous ceux-là vont, muets devant ceux qui les tondent, car celui qui a offert son dos et sa joue à ceux qui le frappaient a vaincu, et règne, et a la victoire et l'honneur, lui qui est le Christ l'amène, le premier et le dernier, la pierre du sommet et de l'angle. En lui asseyez-vous dans la vie et la paix et le repos. Ainsi rien de plus, sinon mon amour dans la semence éternelle, le second Adam qui ne tomba ni ne changea jamais, dont l'amour est au-dessus de tout l'amour dans la maison d'Adam dans la chute. George Fox, lettre historique suite.